Retrouvez Eau de Radio en ligne sur eauderadio.net. Eau de Radio, la radio des Hautes-Garonne.
Il est 19h. Retrouvez l'Infernal et son équipe dans La Voix du Geek, l'émission 100% jeux vidéo sur O2 Radio.
Oh, c'est pas vrai?
Alors tu montes le son et tu fermes ta gueule.
Allez, salut à tous, bienvenue dans La Voix du Geek. Mais non, c'est pas vrai! Bienvenue dans La Voix du Geek, bordel de merde! Alors comme vous pouvez le constater, nous avons toujours la table de 1972, elle a servi au général de Gaulle en fait. Non, je vous explique, la vraie table de mixage est en réparation. Hein. Donc du coup, c'est pour ça que les micros croustillent un petit peu, c'est pas ton autoradio ma poule, je te vois, t'es déjà en train de le tripoter. Bref, allez, ça fait plaisir, il est 19h, il est mardi surtout. Et ça c'est cool parce que c'est l'heure de La Voix du Geek. On est parti pour 1h30 de direct, du jeu vidéo, du bon délire. Et ça, ça fait plaisir, franchement. Toute l'équipe est là. Alors, Eki n'est pas là. toute l'équipe est là. Alors, faites surtout bien attention à pas trop hurler dans les micros, les poulets, sinon on risque de faire exploser la table de mixage. Bref, bon, du coup, il y a Kogu, tiens, qui est là. On va commencer par toi. Comment ça va, mon poulet?
Ben, ça va, super bien.
Ouais?
Ouais.
Semaine vidéoludique?
Ben, pas vraiment.
Alors, oui.
Pas vraiment. Rentrée scolaire oblige, rythme scolaire oblige avec la petite, donc ben et puis du sommeil quand même. J'ai,
oui.
Ça y est, j'ai retrouvé ce que c'était.
Faut dire que Kogu a dormi environ une demi-heure pendant tout le mois d'août. Hein.
À peu près.
Je suis témoin.
Donc voilà. Mais du coup, si, un tout petit peu de vidéo ludique, juste ce qu'il faut.
Yes. Bon, c'est cool. T'as joué à I Am Bread cet après-midi.
Ouais.
T'as vu la balance.
Excuse ton anglais, c'est I Am Bread.
Yes. I Am Bread. Et il y a cette tease.
Et c'est génial.
Où on a, ouais, alors, c'est génial. C'est un jeu où on incarne une tranche de pain de mie.
Ah ben, je me suis retrouvé, mais totalement en elle. Hein. La même souplesse, la même mollesse.
Ok, parfait. Tu sais que tu vends bien le dos, ça. Ça donne envie de l'acheter à 13€ sur PSN. Et puis, il est là, tiens, il est beau gosse. Il a toujours la même coupe de cheveux. Non, non, on présentera invité ensuite. C'est Kogu. Je suis au bout du rouleau.
Non, mais t'as dit beau gosse, donc forcément, oui. Ça allait Kogu.
Et oui, t'as parlé de cheveux, donc. Oula, dis donc, quelle voix.
Oui, c'est Gusty. Comment ça va, poulet?
Eh ben, écoute, ça va très très bien. Bonsoir tout le monde.
Ouais, bonne semaine vidéoludique.
Alors. Plus ou moins, c'était plus comics cette semaine, mais
vidéo. Et brushing.
Ouais, rétro brushing, on va dire, ambiance McFly. Et ouais, dans les comics, bah, j'ai tâté du Infinite Loop. C'est un comics français et bah, voilà, je vous l'annonce, mais on aura les auteurs de cette bande dessinée d'ici le mois d'octobre, parce que j'ai parlé un petit peu avec eux, j'ai parlé aussi avec Glenna, que j'embrasse aussi, hein, qui nous ont liké, hein, entre temps.
Oui, bisous Glenna. Glenna Comics.
Glenna Comics, si voilà. Écoute. On les embrasse, et puis, j'ai joué à Zombie. Enfin,
le remastered.
Il est sympa, mais on sent vraiment qu'il a été créé que pour la Wii U, quoi. Parce qu'au niveau des touches, c'est du grand n'importe quoi. Mais graphiquement, bon, bah, c'est du portage Wii U, PlayStation 4. Hein,
mais ouais, mais moi j'aime bien. Tu sais, ta batte de cricket là et tu fonces dans les zombies.
Mais, et tu vois, j'ai kiffé parce que voir la garde royale en zombie et un quepon zombie, je trouve que ça a trop la classe, quoi.
Oui, parce qu'il faut savoir que ça se passe à Londres, hein, et tous les londoniens sont des quepons, hein, c'est bien connu. Tout comme tous les asiatiques font des arts martiaux, hein, sont des ninjas. Hein.
D'ailleurs, bah, on embrasse Jackie Chan.
Oui, mais, il nous écoute d'ailleurs.
Non, franchement, il est hyper sympa. Il vaut son prix, 20 euros.
Jackie Chan?
Ouais, Jackie Chan, Suzy Wan, ouais. Et non, j'ai bien aimé, mais sinon j'ai plus lu du comics cette semaine. Et je fais des gros bisous à l'amicale du geek, James Cefey.
Oui, carrément.
Voilà, donc je leur fais des gros bisous kékettes.
Qu'on aura aussi dans l'émission, non?
C'est en pourparlers, donc faut que je Skype avec eux. Donc
ça voilà. Veut dire qu'il va falloir que je sorte mon stylo Hello Kitty pour signer l'échec.
Va falloir aussi que je déroule du câble, comme à chaque fois. Donc voilà.
On les embrasse, ils nous écoutent.
Je suis la Chagas la team, je suis désolé. Donc.
Bon, c'est cool, merci mon poulet. Et puis il est là, il est beau, il a enfin trouvé son pseudo.
Oh, pas mal. Et il va nous sortir une connerie. Oh, l'enfoiré. Je savais qu'il allait me faire une connerie.
Au pays de Gandhi.
Ah, ils le savaient tous en plus.
Ah non.
Ah, bon.
Total impro.
Eh non,
ça
je suis
un geek, on pleure.
Allez, comment ça va mon poulet?
Eh bien, ça va très très bien. Très très bien, bah, toujours en train de peaufiner Witcher 3.
Oui.
J'ai commencé Metal Gear Solid 5. Alors j'ai pas eu beaucoup de temps puisque j'ai beaucoup passé de temps sur Witcher. Je comptais le terminer avant d'attaquer MGS et j'ai pas eu le temps. Voilà. Donc là ce soir j'ai fait un petit peu de MGS pour le test. Pour qu'on en parle un peu.
J'ai testé l'introduction, elle est géniale.
Comment ?
J'ai testé l'intro, elle est hyper belle à voir.
Ouais, l'intro, ouais, voilà. On en parlera tout à l'heure, mais belle intro. et puis non, mais je sais que en rentrant ce soir, je vais me remettre sur Witcher. Quoi.
Yes.
Et MGS plus tard. Et puis tiens,
et puis je voulais
de...
vous dire aussi que je vous aime, les gars.
Eh ben nous aussi,
je vous
on
aime vraiment.
Bah,
dis donc.
Vous êtes mes potos.
On t'aime aussi.
Ça fait plaisir.
Je dis rien parce que je suis ému.
Et vu qu'on est des gros noobs, on est des gros noobs de Metal Gear. Il est là, il est beau. Il y a Tomissa qui est là avec nous ce soir. Comment ça va, poulet ?
Bonsoir.
Et ça va très bien, et toi ?
Eh ben écoute, carrément quoi. Donc Tomissa, hein, pour ceux qui sont de la région bordelaise, vous pouvez le reconnaître facilement. Il est toujours en costard.
De ouf. Je me rappelle la toute première fois qu'on s'est vu, c'était pour un été des gamers. C'était il y a quelques années. À l'époque, je bossais pour Focal TV. J'étais venu en reportage et je le vois, Tomissa, il arrive, mais genre le costard, la cravate rouge et genre la mallette à la main, genre le pad de Street Fighter, tu vois. Et le gars, il arrive, mais grande classe, chaussures vernies et tout.
Bon, ce ne sont que des habits, hein. C'est histoire d'être coquet.
J'adore. Mais franchement,
moi j'ai regardé sa nuque tout à l'heure voir s'il y avait pas un numéro tatoué derrière, tu vois. Bon, ça va, j'ai rien vu.
C'est 46.
Bon, en tout cas, merci d'être là. C'est la première fois que tu nous rends visite.
Avec grand plaisir.
Et puis, tu vas nous parler de Metal Gear, vu que tu l'as déjà torché, quoi.
Tout à fait, tout à fait.
Oh, le salaud.
J'ai fait que ça. Donc, toute la semaine dernière, je l'ai fini hier soir, d'ailleurs, pour vous, exprès. Hein,
yes.
Pour pouvoir en parler plus en détail. Et on va en parler, donc préférons, restons silencieux.
Yes, bon, bah c'est cool. Et puis, vu que vous me le pêche manège, voilà. Ça fait toujours plaisir quand
ça sort
dans le bon
sens. Et toi, ta
semaine
vidéo ludique.
Voilà. En fait, c'est ça que je voulais que tu me demandes.
Eh ben, je savais.
Eh ben, moi, je joue encore à Mad Max.
Désespérément.
J'ai toujours le bug à la con qui m'empêche de progresser dans l'histoire. Donc, j'ai cliné toute la zone du bas. J'ai fait tous les petits trucs relous, tu sais, genre les petits coffres d'Assassin's Creed. Tu vois.
Alors...
Bah, j'ai tout ramassé, j'ai fait toutes les cours, j'ai tout cliné à 100%. Maintenant, j'attends plus qu'une mise à jour.
Il y a plus un grain de sable dans la map.
Je me suis fait chier, j'ai passé l'aspirateur et tout. C'est un truc de ouf. Bref, si nous écoute, Avalanche Studio, bougez-vous la nouille, parce que ça fait quand même une semaine que je tourne en rond dans votre jeu. Ça commence à bien faire. Et puis sinon, ma semaine, bah là, c'est la tuile. Là.
Aïe.
Ah là, c'est la tuile. Vous savez que j'ai un chat, Jacob, que j'embrasse.
Oh merde.
Eh ouais, bah là, c'est la tuile. Là. Parce que tu sais, on est tous pareils. Moi, je m'endors toujours avec un film le soir. Et puis, bah la dernière fois, je me suis endormi avec les Aristochats.
Oh putain.
Eh bah, ça y est. Monsieur, ça, il a pété un câble. Monsieur veut jouer de la trompette maintenant. Donc, j'ai couru toute la semaine pour trouver un prof de trompette qui veut bien qu'il y ait un chat qui joue dans son orchestre. C'est la cata. Donc on a perdu Tomissa.
Je m'attendais à un truc du style hyper hyper triste. Ouais, mon chat il est malade ou il est
mort.
Oui,
bah oui, je l'aurais dit à la radio, ouais, carrément quoi. Non mais voilà, c'est une tannée. Donc si tu nous écoutes, toi jeune prof de musique, trompette, saxophone, tout ce qui souffle, flûte à bec, j'ai mon chat. C'est sa nouvelle lubie. Il veut jouer de la trompette. Il s'appelle Jacob.
Si tu veux, mon frère joue du saxophone.
Ah, eh ben écoute, je te filerai le Facebook de mon chat. On les mettra en relation.
Jacob l'infernal.
C'est ça. Et puis du coup, tiens, on va en profiter pour faire un petit bisou à Blue. Tiens, notre Quentin Blue national, pour qui c'est l'anniversaire aujourd'hui.
Bisous, Saladin.
Quel âge il a déjà, du coup?
28 ans, je crois.
28, joli.
Oh, les
bientôt la trentaine, le déambulateur, tout ça. Et puis tiens, je fais une dédicace à Anne, une copine d'enfance qui a déménagé récemment sur Bordeaux. Je t'embrasse et puis on va aller se boire un café, je sais pas trop quand, on va trouver 5 minutes. Bienvenue à Bordeaux. Tu vas voir, on s'amuse bien. Et en plus, tu captes Odeur Radio sur la bande FM. Donc ça, c'est
trop
la
bien.
Classe. Tu vas pouvoir écouter La Voix du Geek tous les mardis. Bref, dans cette émission, qu'est-ce qu'on va y faire? On va se faire toutes les news jeux vidéo comme chaque semaine. On va s'écouter, tiens, à la nuit, Triptyque avec Bouge tes cheveux. C'est le morceau préféré de Kogu, ça.
C'est le mien.
Non, vous allez voir, ça déboîte, c'est du bon rap français, c'est un peu à l'ancienne, mais ça fait toujours plaisir. Après, on va se faire un petit, une petite review, tiens, sur la série Metal Gear. Il y a un paquet de jeux. On va en parler un peu, on va tous les lister, puis voir si on a des anecdotes dessus. À 20h, on va s'écouter... Je l'ai dans la tête depuis ce matin. On va s'écouter Pierre Billon avec la Bamba Triste.
Oh génial, là oui.
Alors ça c'est toujours la dédicace pour le mec qui nous écoute dans sa voiture. À 20h on lui fera un petit big up pour qu'il pousse le son à donf là, les fenêtres ouvertes et tout. La Bamba Triste à fond dans la bagnole, ça c'est la classe. Et puis après on fera le test, tiens, de Metal Gear Solid Phantom Pain. On va vous dire ce qu'on en a pensé, le peu qu'on y a joué quoi. Ah oui, et puis tiens, j'ai oublié, mais oui, mais il est toujours dans mon dos. Faut que j'arrête de traîner avec Anthony, parce qu'il est toujours dans mon dos en fait.
À mon avis, il veut m'envoyer un message. Oui, j'ai zappé, après 20h, vous aurez droit au coup de fil du PNJ. Tiens, c'est le premier de l'année. Ce sera sur Metal Gear, donc ça, ça va chier, quoi. Je suis trop impatient d'envoyer le jingle. Et puis, il y a mon pote Vincent, tiens, qui est avec moi dans la régie aussi. Ça va, mon poulet ?
Ça va bien, ça va.
Tu veux dire un petit bonjour au micro ?
Bonjour à tous, et j'embrasse ma fille si elle m'écoute.
Et oui, c'est Mylène, la Mylène de la semaine dernière à qui on a fait une dédicace. Et ouais, la boucle est bouclée. Bon, vous voulez que j'envoie la musique des news ?
Yeah.
Allez, c'est y part. Allez, bah, comme vous voulez, les poulets.
Bah, allez, je commence, parce allez, que je suis motivé. Et là, tu verras, toujours pas de blanc pour cette saison. Alors, on l'attendait depuis très longtemps, enfin, en tout cas, depuis la sortie de The Witcher 3. Ça y est, on a eu l'info. On va pouvoir jouer au Gwent en vrai.
Ah, cool.
Alors, il avait été annoncé il y a pas longtemps que The Witcher 3 aurait deux extensions à venir. Donc, une le 13 octobre qui s'appelle Hearts of Stone. Et une autre qui sortirait début 2016 et qui s'appellerait Blood and Wine. Alors, à savoir Hearts and Stone, donc déjà pour pouvoir y jouer, il faut avoir un perso niveau 30 minimum. C'est à peu près une dizaine d'heures de jeu, il y aura des nouveaux monstres, des nouveaux personnages et de nouvelles romances, donc pour les plus coquins. Et il y aura en plus des nouveaux systèmes de runes, donc sans doute comme on a pu avoir avec les armes, les équipements, etc. Donc, à savoir que cette première extension, sortira en package à 19,99€ en édition spéciale collector.
Et oui, Maryse.
Deux decks de cartes de Gwent, avec dedans les Scoyatel et les monstres.
Alors, bah, c'est pas livré avec deux nanas qui s'aiment fort, hein. C'est du Gwent.
Ouais, non, du Gwent. Du Gwent avec un T.
Est-ce qu'on a la tête de griffon offerte en collector?
Non. Non, non, non. Non, non, non y a
par contre, tu as la selle d'Ablette.
Ah ouais. Cool.
Bon, ah, ça, c'est cool ça.
En taille réelle.
Donc Scoyatel et monstres en deck. Il y aura aussi des jetons. Alors les jetons, mis à part les petits cristaux qui explosent quand tu perds une partie, je vois pas ce que ça pourrait être.
C'est pour faire des tours de tamponneuse. Des vrais jetons. Enfin, genre,
je vois pas
mettre dans des caddies
qu'on pourra donner dans les fêtes foraines et tout pour attraper des peluches aussi.
Impossible. Et donc il y aura.
J'espère qu'il y en aura au chocolat.
Oh le troll. Et il y aura un petit bouquin avec les règles. Alors, à savoir que cette édition spéciale collector, comme ils l'appellent, sera uniquement disponible sur PC et PS4. Donc, tout ce qui est Microsoft, bye bye.
Ok, bon, tu vois,
les pauvres. Je suis désolé, hein, mais bon, ça fait plaisir d'avoir une PS4, quoi.
C'est pour pas troller, quoi.
Vous remarquerez un beau travail journalistique et on ne prend pas parti dans la boîte.
Non, mais je suis PCiste aussi, donc je suis content. Parce que c'est aussi sur PC.
D'accord, ok. Bah, c'est un petit tacle pour l'exclusivité de Rise of the Tomb Raider.
Donc, sans doute, ouais, voilà, c'est gentil. Mais c'est juste pour dire que, bon, là, on a deux decks de cartes avec Scoyatel Monstre, et sans doute dans la prochaine extension. Et putain, mais je vais pas y arriver. Extension.
C'est une extension de voix.
Extension, donc Blood and Wine, on aura certainement les deux autres decks de Royaume du Nord et du Nilfgaard.
Ok.
Voilà.
Bon bah ça c'est cool, tiens je fais juste une parenthèse, j'ai complètement zappé, n'hésitez pas à nous suivre sur Facebook et sur Twitter, la voix du geek, hein, la voix avec un E, n'hésitez pas à laisser des messages en direct, moi je les lirai tous, que ça soit sur Facebook ou sur Twitter, n'hésitez pas, et puis tiens, j'ai tout zappé, hein. Il faut que je me fasse une liste comme pour les courses. Vous pouvez nous appeler en direct, bien sûr, pour faire les cons avec nous au 05 56 74 76 85. 05 56 74 76 85. N'hésitez pas si vous avez une dédicace ou si vous voulez parler de ce que vous voulez, n'hésitez pas à nous appeler. Voilà. Allez, vas-y, Goustic.
Tu viens quand tu veux. Alors, moi, je vais vous parler de Star Wars parce que comme depuis ces derniers jours, on ne fait que de parler de Star Wars par rapport à la sortie avancée. Et oui, cocorico, parce que nous, on aura la chance d'avoir Star Wars deux jours avant la sortie mondiale qui était prévue le vendredi 18 décembre.
Et ouais, c'est ouf. Hein.
Et ouais, et nous on a l'exclu, mon coco.
Tu parles l'Europe ou la France?
La France.
La France.
La France en elle-même.
Comment ça se fait?
Parce que en fait, si tu veux,
il y en a qui ont déroulé du câble. Hein,
non, bah peut-être qu'il y en a qui ont serré beaucoup de mains, j'imagine. Mais en fait, si tu veux, vu que nos films sortent les mercredis, Disney a voulu que qu'ils respectent les traditions françaises pour les projections cinématographiques. C'est alors bien. Du coup, eh bien, on aura Star Wars 7 avant tout le monde. Et moi, je trouve que c'est la grande classe.
Ah oui, non, mais carrément. Et d'ici là, il y aura une poignée de main qui va annoncer que maintenant les films sortiront le lundi.
Ah oui.
Donc on aura Star Wars lundi.
Ça peut être sympa pour les fins de mois. Mais je vais vous parler aussi de la Star Wars Friday qui était sortie vendredi dernier.
Ben
donc
oui.
C'est dingue. Hein. Et l'événement a duré plus de 16 heures parce que c'était en simultané dans les 5 continents en fait. Je crois qu'au départ ça a commencé en Australie, ensuite c'est parti à Londres. Et pourquoi ça a duré autant? Et ben en fait ils ont fait des young boxing de chaque produit. Donc vous imaginez les pièces Lego, hein, genre alors ça c'est la pièce 6556
7D. Alors j'ai une petite parenthèse là-dessus parce que je les ai vus les jouets, les nouveaux jouets Star Wars, ouais. Que ça soit du Lego ou autre chose. C'est un truc de ouf. Il a fallu que je serre les fesses pour pas me racheter. Alors par contre les jouets, je suis un peu halluciné parce que c'est sorti très tôt avant la sortie du film.
Bah, ouais. En général,
comment ça te spoil, ouais. Tu regardes les Lego, tu connais déjà les vaisseaux des méchants, tous les dos.
Ouais.
J'ai halluciné.
C'est vrai que ça spoil en soi, mais bon après s'il meurt au bout de 2 minutes dans le film, c'est pas grave. Mais du coup, il y a eu pas mal de jouets Lego, dont le fameux Funko Millennium qui est à je sais plus combien, je crois à 200 euros, il me semble.
165 euros.
En Lego ?
Ouais, en Lego. Tu as le nouveau design du X-Wing aussi, qui est dans les mêmes prix, dans les 100 euros, pareil.
Ouais, il est noir et rouge.
Noir et orange.
Oui, noir et orange, ouais, noir il est très orange. Laid d'ailleurs.
Ouais. Oh non, moi je le trouve classe. Hein.
Ça n'a rien à faire sur mon armoire.
On a eu aussi le drone Faucon Millennium, le drone X-Wing aussi, pour la modique somme, pareil, dans les 100 euros. Hein, donc voilà, je sens que papa et maman ils vont torcher hein, à Noël. Et puis la grosse exclue. Ça, franchement, quand j'ai vu ça,
les Pampers Star Wars.
Non, pas
du tout.
Et
quand tu mouilles ta culotte, eh ben il y a des motifs qui apparaissent.
La bande à cire Chewbacca. Non, je déconne. Non, en fait, non, la grosse exclue, ça, franchement, c'est, j'étais comme un gosse. Et eh ben le BB-8, enfin, commandable en fait, grâce à ton smartphone. Et c'est une, je trouve que c'est une putain d'idée quoi, parce que déjà le design de ce personnage, il est classe, il est tout mignon.
Alors je vais me faire taper, mais c'est quoi le BB-8?
C'est le nouveau droïde.
C'est le nouveau R2D2 là.
Voilà.
C'est celui qui est tout rond,
orange.
Voilà. Et en fait, c'est un ballon en fait. Donc du coup, il a tellement la classe, il touche Choupinot et il coûte 165 euros. Donc papa, maman, si tu m'entends, tu sais quoi m'acheter à Noël et à mon anniversaire.
Donc ce qu'il faut savoir, hein, c'est que le papa et la maman de Goustic sont la même personne. Hein. Papa, maman, si tu m'entends.
C'est vrai. Voilà. José, je t'embrasse.
José Patrick.
Il s'appelle Dominique. C'est
ça.
IL.
C'est ça, exactement. Et voilà, l'événement a duré plus de 16 heures. Et entre-temps, on a aussi on a appris qu'il y aurait des écoles de sabre laser en France. Dont une est ouverte, il me semble, à Paris. Il y en a une à Orléans, prochainement à Cholet. Et d'ici fin 2015, début 2016, il y aura
une à Libourne,
une à Bordeaux. Il y aura une école de sabre laser à Bordeaux. Alors vous allez me dire, mais en quoi ça consiste cette école de sabre laser?
En fait,
pendant 2 heures, vous allez faire de l'entraînement, des arts martiaux aussi. Il y aura un côté philosophique. Il y aura du bouddhisme aussi.
Est-ce qu'on manipulera la force?
Oui.
T'imagines
avec le prof, mais ça sera en accès VIP.
T'entraîner, tu devras.
Oh oui.
Exactement.
Yoda, il a un petit cul.
Alors, au niveau de l'abonnement, c'est un peu cher. C'est 320 euros l'année. Donc, alors, je donne le tarif juste pour l'école de Paris. Alors, il se peut peut-être que ça va être différent pour les autres écoles. Il y a différents niveaux de Jedi. Il y en a 7. T'as le niveau genre le courage, ça représente une couleur, machin et tout.
On pourra le mettre sur le CV après.
Non mais c'est vraiment
tu sais,
perché.
Ça sera tu fais quoi? Moi je fais du judo, moi du karaté, toi tu fais quoi? Moi je suis Jedi.
Ouais mais tu vois au moins
tu pratiques
moi,
ça tous les jours de la semaine ou juste le Jedi?
T'imagines tes délégués de classe, ils disent tu dois aller à au conseil de classe. Ah ben non, je peux pas, j'ai sabre laser. C'est la classe quand même. C'est mieux que je peux pas, j'ai
piscine
quoi. Voilà. Donc voilà, et c'est plutôt une bonne surprise, j'ai envie de dire, dis donc.
Tu t'y attendais pas.
Ah là, sur ce coup-là, pas du tout. Mais en tout cas, on attend le 16 décembre parce que.
Eh oui.
On aura la chance de le voir 2 jours avant.
Ouais, carrément.
Allez, Kogu, voilà. Tiens, enchaîne, t'as préparé des news ou pas?
Ah non, moi j'étais même pas invité au départ. Hein. Okay. Moi, je suis arrivé.
Allez, bah j'enchaîne, tiens.
Ça
avec...
fait combien de temps que t'es dans l'équipe là?
De...
Tu te fous de ma gueule là.
Non, c'était le dernier, c'était le dernier jour mardi dernier.
Alors tu vas te connecter, tu vas me chercher une news là,
sur tu vas passer à la compta.
Vite fait.
Non, mais si, mais j'en ai vu, mais après je sais que les autres ils les ont vraiment préparés eux, donc je vais pas me lancer leur piquer leur news.
C'est pas grave. Non, non, mais allez, tiens, j'enchaîne moi avec une info qui m'a fait rire. En fait, c'est Sony Belgique qui a fuité.
Ah.
Sur Twitter, en fait, ils ont balancé la date de sortie, le prix et le vrai nom du Morpheus de Sony. Donc, il s'appellera le Real Eyes. Il coûtera 299€. Il sortira le 29 janvier. J'imagine trop les mecs. Jean-Jean, je crois que j'ai fait une fuite sur Cui-Cui. Non, parce qu'en Belgique, Twitter, c'est Cui-Cui.
Oh,
ouais, je crois que j'ai fait une fuite sur Cui-Cui. J'imagine trop les mecs, quoi. Sur le Cui-Cui bleu. Bon, bref, en tout cas, voilà. Morpheus, toi, Tommy, ça, c'est un truc qui te botte, la réalité virtuelle ou pas?
Tout à fait. Pour avoir essayé un petit peu l'Oculus Rift, je trouve que ça donne des sensations vraiment inédites, très intéressantes au niveau du gameplay. Donc, je serais curieux de voir ce que va faire Sony dessus.
Yes. Bah, moi, en tout cas, 299€, ça va. Normalement, c'était 400, hein.
Ouais, mais attends, est-ce que ça vaut vraiment de foutre autant d'argent pour un truc comme ça qui sera sans doute utilisé sur 5 jeux.
On verra. Selon Sony, c'est l'avenir.
Ouais, pour la PS5. Et puis d'ici là, ils auront fait un deuxième Project Morpheus que tu paieras encore plus cher.
C'est vrai que ça sent un peu le prototype.
Ouais. Moi, je pense que ça vaut pas. Enfin, je suis désolé, Sony, hein, je vais pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Mais je pense que c'est un petit peu le prototype, on va payer et puis ils vont se dire bon, en fait on peut l'améliorer comme avec Kinect, hein.
Oui, non, mais dans ces cas-là, sinon on serait resté à la Super Nintendo, ils sortiraient pas une console tous les 10 ans.
Oui, mais bon, voilà, moi c'est le côté économique qui me dit que c'est pas, je passerai mon tour.
Si on fait pas évoluer les choses avec la... Enfin voilà, non, avec tout ce qu'on découvre. Non,
je pense que ça va marcher très bien, ça va marcher de suite. Mais après, comme tout produit, il va falloir attendre qu'il y ait un catalogue suffisamment fourni pour pouvoir y jouer. Parce que pour l'instant, on a plein d'idées de super jeux qu'on verrait super bien tourner là-dessus.
Oh, Alien.
avant que ça arrive.
Bon, on verra. Hein. Après, en tout cas, sachez que dans l'équipe, moi, je le prendrai. Et donc, on en parlera maintes et maintes fois. On fera des streams dessus aussi. On fera des grosses soirées dédiées à ça.
D'ailleurs, je me demande comment ça va donner en stream, le Morpheus, quand même.
Eh ben, est-ce que l'image sera normale je ou pense. Est-ce que, comme l'Oculus, t'auras deux ronds? Ce serait complètement con.
Je pense pas. Enfin, j'espère pas.
Et non, sachant qu'on l'a essayé à l'IDEF, l'écran était normal pour les autres. Ouais. Donc oui, il y a une sortie en fait en HDMI qui rebalance l'image, quoi. Ok, bon, on verra ça. Affaire à suivre. Vas-y Clément, je t'en prie.
Pardon ?
Dandy, pardon. Eh oui, mais bon.
Je vais le faire chier à chaque fois.
Eh oui, mais bon, tu vois, il faut le temps. Hein.
Oh, bah oui, non, mais je rigole, après c'est pas grave. Hein. Alors ce soir, c'est une spéciale MGS5. Alors justement, je vais parler d'un petit problème qui est survenu et qui a été annoncé par Konami. Il semblerait qu'il ne faille pas utiliser Quiet, la jolie sniper très joliment dévêtue.
Celle qui est à poil.
Ouais, voilà, ouais, exactement celle qui a de jolis melons. J'irai pas plus loin.
Oh non. Mais avec Jean-Rouca ce soir.
oui, donc il ne faudrait pas l'utiliser de la mission 29 à 42. Faudrait utiliser un autre perso à la place. Pourquoi ? Parce qu'apparemment, ça corromprait les sauvegardes de MGS.
Ok.
Donc ça voudrait dire que.
Et sur Mad Max, non, ils disent rien.
Comment ?
Et sur Mad Max, ils disent rien.
Oh non, Mad Max, ils ont jeté l'éponge. Ils ont dit qu'ils arrêtaient.
Je pense qu'ils attendent juste la sortie Blu-ray en fait.
J'ai même entendu dire qu'ils reprenaient les jeux en magasin.
Non.
Non, je déconne. Non, faut pas faire de la mauvaise pub. Non, je déconne. Non, apparemment, tu serais un des rares à avoir eu ce problème. Alors
on est nombreux hein, sur des forums.
Ah.
Alors apparemment, ils sont beaucoup plus nombreux en Angleterre, aux États-Unis. En France, c'est pas trop touché. T'as vraiment pas eu de bol quand même.
Et je sais pourquoi. Parce que la boutique où on les achète, ils viennent de là-bas.
Et ben voilà.
Ah ouais. Et voilà.
Et il y en a là-dedans. Tu Sherlock Holmes, Pipabule, tout ça. Bon, je vais porter plainte contre eux, c'est pas grave.
Il est con.
Bon, c'est cool, Dandy. T'en as fini?
Bah vas-y, dis-le si je te fais chier.
Bah non, mais je te demande, tu t'éloignes petit à petit du micro comme ça.
Bah écoute, tu me coupes, moi j'ai plus rien à dire.
Ah non, mais vas-y, je t'en prie.
Non, mais je suis vexé, c'est bon, je veux plus.
Ok, bon, je coupe ton micro.
Allez, si vous voulez, à côté, il y a un ring, il y a de la boue, vous pouvez vous castagner la gueule, hein, si vous voulez.
Tu voulais pas nous parler d'Ubisoft?
J'ai éteint son micro.
Non, c'est pas toi tout à l'heure qui a dit ça?
Bah non, ça c'est.
Non,
ça c'est l'infernal. Mais c'est pas grave, on enchaîne, on enchaîne.
Alors tu l'as parlé. Bon, mais non, ça c'est bon.
Je vais rester toujours dans le cinéma et je vais vous parler encore une adaptation de jeu vidéo très connue. Je vais vous parler de
Rayman.
Non, de Grand Theft Auto, en fait. Grand Theft Auto aura son adaptation cinématographique, mais en fait, si tu veux, ça va être principalement basé sur comment a été créé le jeu, en fait. Ouais, c'est un téléfilm qui sera diffusé sur la chaîne BBC, dont le trailer a été diffusé il y a quelques heures ou il y a
c'est
quelques
avec
jours.
Harry Potter, c'est celui-là.
Et oui, il y aura Daniel Radcliffe qui a joué dans Harry Potter et récemment Horns. Et du coup, il jouera l'un des co-créateurs du jeu et de Rockstar. Et en fait, ça se basera vraiment sur la création du jeu et sur l'impact que ça a eu quand le premier jeu était sorti, la fameuse guéguerre avec les avocats et compagnie. Donc voilà, on connaît pas encore de date, mais ça a l'air bien sympa parce que Daniel Radcliffe en mode West Coast, East Coast,
ah,
ça
il a trop de swag hein, dans le trailer.
Ouais, avec sa belle barbe de hipster, franchement ça donne envie, son t-shirt Los Angeles.
Carrément, c'est très radiophonique ce que tu fais, Gusty.
Ah mais comme à chaque fois, tu vois, je suis professionnel dans l'âme, c'est...
ce qu'il faut savoir, c'est un film qui ressemblera beaucoup à The Social Network,
voilà,
où on comprend et on voit la construction de Facebook en fait.
Donc voilà. Donc du coup, ouais, ça peut être sympa, et puis moi j'attends de voir. Et le titre de ce film s'appellera The Game Changers.
Ok, voilà. C'est cool.
En un seul mot.
Exactement, oui.
Yes. Allez, tiens, moi j'enchaîne, je vais vous parler d'Ubisoft, tiens, qui va sortir et qui va créer un parc d'attractions à Kuala Lumpur, en Malaisie, en 2020. Il faut savoir que ça fera 10 000 mètres carrés, et donc on pourra retrouver tous les personnages de la série, quoi.
C'est chouette, c'est pas loin en plus.
Kuala Lumpur ?
Ah bah oui, bien sûr.
Bah, un coup de trottinette.
Ils ont fait ça parce que c'est la deuxième destination la plus visitée au monde.
Ah ouais ?
C'est vrai ?
Déjà, ouais.
Ouais. D'accord, on embrasse tous les Kuala Lumpuriens qui nous écoutent. Donc voilà, on s'est.
Et
moi,
après, c'est parce qu'ils ont un partenariat également avec une des sociétés là-bas.
Ah, ouais. Ok, c'est encore Magouille et compagnie, tout ça, quoi.
Un peu, mais après, c'est vrai qu'ils ont un vrai enjeu financier à le faire là-bas aussi.
Ok, bon, en tout cas, voilà, à part des lapins crétins, qu'est-ce qui, franchement, en licence d'Ubi, quoi.
Bah, des points de synchronisation pour aller au chiottes.
Bah ouais, un plongeon
de la foi.
Mais c'est ça, un plongeon de la foi pour rejoindre le parking.
Ouais.
Classe.
Ça va nous coûter un peu cher en paille, mais ça se tente.
Ouais, puis le côté Splinter Cell aussi.
La fusillade à la Watch Dogs en courant sur les voitures.
Ouais, mais de là à transposer ça en parc d'attractions, tu vois, Nintendo, ça tient encore un peu la route. Mario Kart, on fait un grand 8.
Bon, ils ont du Rayman, ils ont du Lapin Crétin.
Ouais, mais Lapin Crétin, il y a déjà ça sur le Futuroscope.
Ouais, voilà, mais ils ont peut-être plus envie de dépendre du Futuroscope.
Ils ont pas de Futuroscope à Kuala Lumpur, donc ça passe.
Et ça passe que c'est.
Pardon. Et puis un parc d'attractions qu'avec des Lapins Crétins, ça va virer au drame, hein, le bordel. Hein.
Ouais.
Ouais, ça peut faire une bonne orgie. Hein.
Le lapin est chaud du lierche, c'est bien connu. Quoi.
C'est ça, exactement.
Yes, tiens, bah, vas-y, que Dandy.
Bah, écoute, moi après, j'ai des news, alors que j'ai appris d'ailleurs cet après-midi.
On appelle ça une news.
Mais des news, on va dire locales, enfin plus ou moins locales, et qui nous concernent, et surtout le partenariat. On va avoir, alors d'ici le mois d'octobre, Tous Gamers chez Cultura, donc qui est un événement geek où on a du tournoi, de la démo de jeu, etc., de tout ce qui va sortir en fin d'année.
Ouais.
Et je tiens à vous l'annoncer, il va y avoir un concours national dans tous les Cultura pour gagner une PlayStation 4 20e anniversaire.
Et qu'est-ce qu'il faut faire pour la gagner?
Ah, alors ça, pour l'instant, les modalités, je les ai pas encore, mais en tout cas, c'est dans les tuyaux, ça va pas tarder à arriver. Et je peux vous annoncer également qu'il va y avoir un concours sur le jeu Forza sur Xbox One. Et le gagnant, alors ça par contre c'est du local, c'est-à-dire par magasin, on pourra gagner un coffret Wonderbox pour du pilotage en bagnole.
Ah bien.
Voilà. Classe. Donc ça fait partie des nombreux lots et cadeaux qui vous attendent
pour aller faire un Rocket League grandeur nature Amérignac.
Ouais, ah, voilà.
Avec des spiders.
C'est ça.
Carrément. Bon bah ça pète. Gusty, il nous reste 2 minutes. T'as une petite news?
Ouais. Une petite news sur Mirror's Edge. Comme vous savez, il sort en mars prochain. Et évidemment, dès demain, vous pourrez retrouver un comics issu de Mirror's Edge qui va se concentrer sur l'histoire de les origines de Faith et qui va mener, enfin ça sera une introduction en fait au prochain Mirror's Edge. C'est publié par Dark Horse Comics, selon à ceux qui on doit les comics de Frank Miller et les Hellboy. Et du coup, ça sort en numérique et en physique le mercredi, demain, aux États-Unis. Donc moi j'attends la version française et puis je pense que il va y en avoir, je pense. Donc mais en tout cas, c'est ceux qui ont fait l'illustration La scénarisation, c'est l'équipe du Mirror's Edge, donc du coup, ça ne peut être que du bon.
Yes. Voilà. Bon, ça, ça fait plaisir. Tu vois, je l'achèterai, ça.
Ça a l'air sympa.
Eh ben, écoute, je te le passerai.
Carrément, ça marche. Tiens, juste rapidement, en bref, la bêta de Battlefront sera ouverte à tous. Il n'y aura pas besoin de préco de jeu ni rien. Début octobre, il n'y a pas de date pour l'instant. PS4, One, PC, tout le monde pourra s'affronter et tout. Ça, ça va faire plaisir. Oh, ça va être un truc de dingue.
C'est du cross-platform?
Non, 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 non. Ah, bon. Mais voilà. Et puis, il y a un film Megaman qui est dans les tuyaux. Tiens, c'est par le réalisateur de Planète des Singes, le reboot.
Oh.
Eras Moquette également, mais bon.
Ah oui, et Eras Moquette aussi.
Ça, sérieux, il y a les films. Ils vont revenir, Eras Moquette?
Oui, ouais. Oui, carrément.
Oh, un film.
Et vous avez pas vu, mais Gusty qui a eu des étoiles dans les yeux. Bah, quoi.
Arrête.
Là, moi, je l'ai vu en pyjama avec son bol de Chocapic, tu vois.
Bah attends, j'avais la peluche de la Binoc et tout. Enfin, c'était trop bien, Eras Moquette.
Alors Megaman en film.
Ah j'ai pas vu les.
D'ailleurs je viens de vérifier si quelqu'un pouvait changer Goustic.
Alors je viens d'apprendre un truc.
Alors il faudrait faire tourner le micro à Tommy, ça, sinon on l'entend pas.
Ah oui pardon, bon, je disais qu'il y avait une suite d'Eras Moquette qui s'appelait les Ras Bitume, où ils étaient un peu pré-ado quoi.
D'accord, ok.
Si Goustic l'avait vu.
Je savais pas ça.
Et la binocle avait du mal à trouver son point pour ce.
Voilà. On va pas détailler. On a tous compris.
Allez on va s'écouter le scud, on va s'écouter Triptyque, tiens, avec Bouge tes cheveux. On revient dans un instant, on fait un petit point sur la série Metal Gear. Et puis voilà, le test du 5, le coup de fil du PNJ. En tout cas, tout ça, c'est toujours dans La Voix du Geek. Il est 19h et nous revient juste après ça.
Vous écoutez Eau de Radio. Vous écoutez Eau de Radio. Sur 91.3. 91.3.
Allez, on est de retour. Ah, vous avez flippé. Putain, c'est hyper fort. Je suis désolé, on a mis le son à donf dans le studio. On était bien là. De quoi ?
T'avais dit une minute.
Eh oui, c'est parce qu'il y a écrit une minute sur la petite pancarte, il n'y a pas 30 secondes.
Ah là là, c'est vrai que ça s'efface pas en plus.
Eh ben non, eh oui non. C'est une superbe ardoise Velleda où si tu laisses les trucs trop longtemps dessus, c'est sec et tu peux plus les enlever. Aïe, aïe. Allez, on se fait une petite bande-son de Metal Gear. Hop, c'est y part. Yes, et puis on va faire le point, tiens. On va faire le point sur la série Metal Gear, parce qu'elle raconte des tonnes et des tonnes d'épisodes. Je vois que Tomisa, t'as aussi le
guide.
J'ai préparé la chronologie de la série au cas où pour.
Ah yes.
Pour vérifier si on n'avait pas fait de conneries.
C'est voilà. Ça. Alors moi je te le dis tout de suite, hein, ça vient de Mythopédia.
J'ai imprimé. Alors il a le nerf de bœuf à côté, et puis si on se trompe, il nous fout une tatane.
J'appelle ça Mythopédia parce que vu que chacun écrit ce qu'il veut. En fait, je vous raconte une histoire. Je voulais écrire ma bio sur Mythopédia et ils ont pas voulu. En fait, j'avais raconté n'importe quoi, genre CAP de. Attends, j'ai mis quoi? CAP d'astronaute. Genre que j'avais découvert le virus contre la dingue ou je sais pas quoi. Tu vois. Mais genre une live de ouf, tu vois, et c'est pas passé.
Ouais, bah je pense.
Alors, bizarrement,
vérifie,
je sais
quoi.
Pas pourquoi. Le mec, il a dû lire, il a dit c'est qui ce mec? Donc tapez pas Brice Gordoué sur Mythopédia, hein, vous trouverez rien. Bref, alors Metal Gear, tiens, le premier épisode est sorti en 87 sur MSX2 et sur NES en 90. Et sur Commodore 64. Alors, premier opus, quelqu'un y a joué?
Oui.
Ah, oui, mais pas longtemps.
Eh ben, dis-nous.
J'étais pas né. Oh, les.
Ah, ça commence.
Aïe.
J'avais 5 ans.
Ouais, donc, je sais pas, je devais en avoir. En quelle année t'as dit? 87?
Ouais.
J'avais. Trop déjà. Je suis né en quelle année? Ah, j'avais 9 ans, mais non, j'avais 9 ans.
Ok, et donc tu y as joué toi? Un peu plus de rythme, hein, les gars, réveillez-vous parce que sinon.
J'ai joué au jeu en étant très très jeune, donc ça devait être en 1991 quand j'ai eu la NES, donc à l'époque j'avais 5 ans. Mais bon, je suis pas allé très loin et j'arrivais pas à finir les jeux à cette époque. J'y ai rejoué beaucoup plus tard avec Metal Gear Solid 3, où les deux jeux sont disponibles. C'est un jeu qui a beaucoup de problèmes de rythme, mais qui était assez ambitieux pour l'époque.
Parce comme nous, quoi.
Proposait des mécaniques, oui.
C'est ça.
Il proposait des mécaniques de gameplay très intéressantes à l'époque où il y avait beaucoup de shoot'em up et de jeux d'action. Là, ils avaient apporté une approche un petit peu différente où il fallait essayer d'éviter les ennemis, de les contourner pour les affronter.
Ah, c'était la naissance et de l'infiltration,
coup,
un peu. Hein.
C'était pas mal. Il y avait toutes les premières mécaniques du jeu qu'on retrouve encore maintenant étaient déjà présentes à l'état de gros, gros, gros brouillon. Mais il y avait de l'idée. Après, yes. C'est assez injouable et assez infinissable, hein, pour être honnête. Hein.
Ah, oui. Je me rappelle que c'est le premier jeu dans lequel je m'amusais à ouvrir les armoires parce qu'à l'intérieur, il y avait des posters,
ouais,
des posters de femmes dénudées.
Sérieux?
Ouais.
Si, si. Eh ben, c'est propre.
C'est vrai.
À 9 ans. Voilà. Voilà.
Je voilà. Te oute.
Ton futur était déjà tracé.
C'est ça.
Allez, ensuite, on a eu le droit à Metal Gear Snake Revenge, sorti en 90 sur NES. Tiens, j'ai lu un petit commentaire. Kojima n'eut aucun lien avec ce titre, prévu comme la suite de Metal Gear en Amérique. Aujourd'hui, ce titre est écarté de l'histoire officielle.
Alors, je vais vous expliquer un peu. En fait, du coup, quand Hideo Kojima avait fait son premier jeu Metal Gear, il y avait eu un succès assez correct à l'époque pour Konami. Mais pour le public américain, ils voulaient cibler un jeu un petit peu plus action, un peu plus dynamique. Et ils ont fait une commande, en fait, auprès d'un studio qui s'appelait Falcom, à l'époque. Et du coup, ça donnait Snake's Revenge, qui est un jeu d'action ultra bourrin, où on tire dans tous les sens, etc. Et qui n'a quasiment aucun lien avec les autres jeux dans l'histoire, si ce n'est que c'est le personnage de Snake. Et qui tire partout, quoi. Il est plus proche de Schwarzenegger que de Rambo.
Un peu comme mon style, quoi.
Voilà.
Ouais, c'est un Call of Duty, mais avec Snake.
Exactement, c'est un Call of Duty de l'époque, ultra bourrin, ultra shoot'em up. Et du coup, s'il n'est pas reconnu dans la chronologie officielle, c'est parce que l'histoire n'a aucun lien avec la chronologie officielle, tout simplement.
Il passait par là et puis...
Et il tirait. Voilà, franchement, là, je vous ai résumé.
Un peu comme moi aussi. ensuite, on a eu le droit à Metal Gear 2 Solid Snake. Donc il est sorti la même année seulement au Japon, entièrement jouable en français dans Metal Gear Solid 3 Subsistance sur PS2.
Tout à fait. Donc là, c'est la vraie suite du premier jeu. Donc
ça, c'était un bon jeu.
C'était un jeu très intéressant. C'était vraiment là, il avait vraiment abouti toutes les premières idées qu'il avait commencé à aborder dans le premier Metal Gear sur MSX. J'y ai très peu joué, mais honnêtement, déjà au niveau de l'histoire, de la manière dont les événements se déroulent, on sent déjà la patte Metal Gear qu'on retrouvera dans Metal Gear Solid après. Tout est déjà là, en fait.
Yes. Ensuite, on a eu Metal Gear Solid, donc en 98 sur PlayStation. Il est réédité en 2004 sur GameCube sous le nom de Metal Gear Solid The Twin Snake. Il est ressorti en 2008 aux États-Unis dans Metal Gear Solid The Essential Collection sur PlayStation 2 et dans Metal Gear Solid Intégral en 2008 sur le PlayStation Store.
Bah, je suis pas du tout emmêlé avec ça.
C'est ça. C'était très clair ce que je viens de dire.
Bon. J'ai tout suivi, t'inquiète pas.
Alors attends, c'est le premier épisode à avoir été distribué à l'international et le premier à avoir été réalisé en 3D. Son succès commercial fait connaître le jeu d'infiltration à un large public. Son créateur, Hideo Kojima, propose une aventure à la mise en scène cinématographique avec une histoire complexe et des personnages fouillés.
Ah, carrément.
Ouais, tu as très bien lu.
T'as vu ?
Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le jeu s'appelle Metal Gear Solid et que le terme solide, qui fait référence au personnage de Solid Snake, fait aussi référence au fait que le jeu est en 3D pour la première fois.
D'accord, ok.
Et donc, c'est assez intéressant parce qu'il a repris les mécaniques de base du jeu qu'il avait fait avant pour le transposer dans un contexte. Dans un monde, c'était pas vraiment un monde ouvert, mais un monde avec plusieurs linéarités, on va dire. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire.
Oui, très bien.
Différents chemins, avec des maps prédestinées, avec des chemins de garde, des rondes qu'il faut détourner. En fait, c'est quasiment le même jeu que sur MSX, Metal Gear 2 Solid Snake, à une plus grande échelle. Après, le côté cinématographique est poussé à un niveau extrêmement avancé. Le scénario, l'histoire, les personnages, c'était quasiment du jamais vu à l'époque en termes de jeux vidéo. C'était très prenant. Il y avait une très grande place qui était placée aux connexions, aux communications radio dans le jeu, qui apportait un développement scénaristique parallèle. Et du coup, pour moi, c'est le meilleur jeu d'histoire. C'est le jeu auquel j'ai le plus joué de ma vie. J'ai dû le finir une centaine de fois.
Et il était
par cœur.
Et ce qui était étonnant d'ailleurs, c'est que c'était, on les connaît maintenant, les Metal Gear, ils sont en version originale sous-titrée français, mais celui-là, il était aussi en version française au niveau des voix.
D'accord.
Il avait un peu une voix space.
Ici Snake. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est Snake.
C'était le même doubleur que pour Batman.
Tout Snake.
Ça marche.
C'était un peu comique, tu vois. C'était un petit peu le gars qui faisait des petites vannes au début. C'est pas du tout le même personnage.
En fait, ce qui est assez impressionnant, c'est qu'il y avait beaucoup de moyens qui avaient été mis par Konami France pour faire le doublage français. Ça avait même été plus ou moins supervisé par Kojima. Mais bon, Kojima parle japonais, il ne parle pas français.
Et oui,
donc du coup, le doublage était assez catastrophique et fait dans des conditions spéciales vu que les acteurs ne voyaient pas le jeu. Donc du coup, ce qu'ils jouaient, ils jouaient uniquement sur des feuilles. Donc l'intensité dramatique de certaines scènes n'était pas très bien retranscrite. Alors que le doublage anglais est de très grande qualité, hein, même encore maintenant.
Alors vous inquiétez pas, je fais pas une machine à côté. Hein,
ouais, c'est
la bande son de méta.
Voilà. C'est la roulette du
dentiste. Là, il y a les finis. Attends, je reviens, je vais mettre les orages. On y croit. C'est la bande son qui est très agréable, hein, comme vous pouvez l'entendre. Hein.
Désolé pour les acouphènes, pour ceux qui en ont.
C'est ça, c'est exactement ça. Metal Gear Solid Intégral ensuite pour PC et PlayStation.
Ah, vas-y. On a oublié un truc qui était vachement important et qui était hyper novateur dans celui-là, c'est que c'était le premier jeu vidéo où pour combattre un boss, je parle de Psycho Mantis. Psycho Mantis, c'était un truc de dingue parce que là, tu brises le quatrième mur où tu es entre ta console et ton jeu. Et t'as ta manette en main et pour battre ce boss qui anticipait tous tes mouvements à la manette, dès que tu faisais un truc, il le savait et automatiquement il te contrait. C'était impossible et des mecs se sont pété la tête et ont pété un câble pour ça. Et la seule solution qu'ils proposaient à l'époque, et je me rappelle, c'était sur la PS1, c'était de débrancher ta manette de ta console et de la brancher sur le port numéro 2.
Sur le deuxième slot.
Et ça voulait dire que le mec, après, il disait « Ah, oh, mais j'arrive plus à lire dans tes pensées, qu'est-ce que je dois faire ?» Mais c'était énorme, c'était énorme, c'était la première fois qu'une interaction dans le monde réel avait une interaction avec le jeu.
Ça va même, et... ça va même encore plus loin que ça, c'est-à-dire que quand
en disant ça, tu m'as foutu les poils.
Ah ouais, non mais c'est vrai, moi aussi, mais c'est un truc de malade.
Quand tu rencontres le personnage de Psycho Mantis au départ, donc il te parle, il te dit tout ce que tu as fait au cours du jeu, et il te donne plus ou moins une note par rapport à la manière dont tu as joué. Tu es quelqu'un de très fort, tu t'infiltres bien, ou tu es ultra bourrin, etc.
Il a pas dû l'entendre souvent, l'infernal, celui-là.
Oui, tu t'infiltres bien,
c'est clair. Et un truc assez extraordinaire, c'est que si vous aviez une sauvegarde d'un jeu Konami sorti à la même époque, donc Vandal Hearts, Symphony of the Night, par exemple, il te citait les jeux. À l'époque où j'avais joué au jeu, il me disait, ah, tu as une sauvegarde de fin, tu joues à Vandal Hearts, tu aimes bien, tu es assez avancé dans le jeu. C'était complètement fou.
C'est ouf. Ouais, c'était Big Brother avant l'heure, quoi. Il savait déjà tout, quoi.
Une autre phase, donc vous avez la manette vibrante, qui était pas forcément fréquente à l'époque. Il te demandait de poser la manette au sol pour te montrer ses pouvoirs, donc, de télékinésie. Il faisait bouger la manette en rythme, donc la manette vibrait et bougeait au sol. Enfin, c'était incroyable.
Hein. C'est une idée de génie, ça.
C'était, enfin, il surprenait le joueur à ce moment-là. Et moi, à un moment, je me suis dit, mais attends, il est en train de m'observer. Enfin, j'avais 13 ans à l'époque. Hein, donc
oui, non, débile,
mais c'est vrai que c'était impressionnant.
C'est incroyable. Oui, yes. Ensuite, on a eu donc Metal Gear Solid VR Mission, un disque additionnel reprenant la partie VR Mission. De bon, ça on comprend rien, on s'en fout. C'est l'angoisse totale, ce jeu, tous les noms se ressemblent, c'est un truc de dingue. Ensuite, on a eu Metal Gear Solid Ghost Babel, sorti sur Game Boy Color en 2000.
Ghost Babel?
Ouais, sorti en 2000 sur Game Boy
Color. C'est un jeu sur le fromage.
Pourquoi? Babel?
Babel.
Il s'agit d'une sorte de hors-série. Le scénario développé dans cet opus n'est pas lié à la saga principale. Ouais. Tant sur Game Boy Color.
En gros, c'est un jeu qui reprend un petit peu les mêmes mécaniques que les anciens jeux sur NES et MSX. Bon, je vais pas faire le malin, j'y ai pas joué. Je connais le jeu, je connais l'histoire, etc. C'est un jeu assez sympa, de ce que j'en sais, de ce que j'en ai pu en voir, mais qui n'a pas grand intérêt pour ce soir.
Ok. Attendez deux secondes. Je vais changer la bande son parce que
c'est oppressant. Hein,
il flippe.
C'est
mets un thème original de Peace Walker par exemple. Ah, voilà, c'est un peu mieux. C'est un peu mieux. Là, tu vois, là, tu les mets sur la table, quoi. Tu vois.
Là, on a l'impression qu'il y a Hulk Hogan qui va nous.
Bonjour Hulk. Ça sent le couillu. Ensuite, on a eu Metal Gear Solid 2 Sand of Liberty sorti en 2001 sur PS2.
Très bien.
Alors, il a été assez controversé celui-là. Suite à l'apparition du personnage Raiden, qui était un peu androgyne justement, et il a été vachement. Alors soit il était très acclamé, soit il était descendu parce qu'il y avait un androgyne qui arrivait
n'importe
où.
C'est un des jeux les plus complexes de toute la saga, qui introduit un élément très important du scénario qui s'appelle les Patriotes. On en reparlera un peu tout à l'heure. Ce qui est particulier avec le personnage de Raiden, c'est que c'est le personnage principal du jeu. Or, on le contrôle qu'à partir d'1h30 de jeu. Et l'existence de ce personnage avait été complètement cachée par Kojima pendant tous les trailers qui avaient été diffusés au préalable, en 2000 et en 2001. Donc c'était une très grande surprise pour les joueurs qui pensaient retrouver Snake et jouer toute l'aventure avec. Au final, au bout d'une heure et demie, on passe à un personnage de Raiden, personnage peu charismatique, sans trop d'identité, etc. Mais c'est justifié par le scénario. Et le jeu regorge de très 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 grands moments. Ça fait partie des meilleurs épisodes.
Mais Raiden, il avait pas fait une apparition déjà dans le premier?
Je crois pas.
Pas vraiment. C'est la toute première apparition de Raiden.
C'est pas lui, le ninja qui arrive dans le couloir.
C'est après.
C'est bien après.
Qui devient un ninja cyborg. En fait.
D'accord.
Un ninja cyborg.
Tout un programme. Grande.
Mais celui-là, d'ailleurs, a été un des grands classiques où il y a eu ce fameux son, tu sais, du point d'exclamation. Avec les fameux passages où tu te caches dans le casier, où tu peux balancer des magazines un petit peu olé olé pour distraire.
Sur la corrida.
Oui, il y a des moments assez méta dans le jeu aussi, où Snake a la possibilité de se masturber dans un casier.
C'est pas vrai.
Tout à fait. Si.
Ça débloque un trophée.
T'imagines
qu'on nous amène une PlayStation sur le champ.
Et le trophée s'appelle Champagne. Je vais chercher la séquence.
C'est très sérieux, c'est même pas une blague, hein, ce que je vous dis.
Ah ouais, d'accord. Ok, ensuite on a eu MGS The Twin Snake en 2004 sur GameCube. C'est un remake en fait de Metal Gear qui reprend le moteur graphique et les innovations apportées par Metal Gear 2. Les cinématiques n'ont plus rien à voir avec celles du jeu d'origine. Ouais. Ensuite on a eu MGS 3 Snake Eater sorti en 2004 sur PS2.
C'est le premier jeu en fait qui se passe. C'est le jeu qui se passe le plus en avant dans la chronologie. C'est le point d'origine en fait de tout, Metal Gear Solid 3. Et on n'incarne plus le personnage de Solid Snake mais son père. Naked Snake, donc plus tard Big Boss, qui est le personnage de Metal Gear Solid 5 hein, qu'on incarne. Et Metal Gear Solid 3 a apporté une nouveauté, c'est que ça se passait dans la jungle. Il y avait tout un aspect un petit peu survie, en plus de l'infiltration, et recherche d'informations, d'animaux, il fallait se nourrir dans la jungle. Enfin, il y avait des aspects très intéressants.
Ça, il y avait différentes tenues en fonction exactement, le camouflage, de la faune qu'il y avait, de la flore.
Et les boss sont les meilleurs boss de la saga.
C'est toi qui as écrit le truc, parce qu'au moment où tu le disais, tu vois, j'étais en train de lire. il intègre un aspect novateur, la survie en milieu hostile. Contrairement à ce que le titre pourrait faire penser, le joueur n'incarne pas Solid Snake, mais son père, Big Boss.
Mes amis m'appellent Tommy Pedia.
La classe.
Alors d'ailleurs, est-ce que tu peux faire juste une petite clarification comme ça pour tous ceux qui connaissent pas trop la différence, parce que c'est vrai que en fait des snakes, il y en a 50. Tu as Naked Snake, Big Boss, le Liquid Snake, Solid Snake. C'est quoi tous ces snakes?
Vaporetto Snake.
Alors,
aussi.
On va expliquer rapidement. Donc en gros, quand le jeu commence, donc les premiers Metal Gear qu'on a évoqués, on incarne le personnage de Solid Snake, qui est le héros de base de la saga, donc qui affronte un méchant qui s'appelle Big Boss. C'est le début du jeu.
Mais qui se ressemble.
Qui se ressemble, tout à fait.
Et on comprend pas pourquoi.
Le méchant qui s'appelle Big Boss s'avère être le père du héros.
D'accord.
Donc le personnage le vainc, on gagne, un peu comme Dark Vador hein, dans Star Wars, hein, je suis ton père, mais je suis le méchant. Dans Metal Gear Solid, il affronte un personnage qui s'appelle Liquid Snake, qui n'est autre que son frère jumeau, en fait.
Ah ok.
Voilà. Et dans Metal Gear Solid 3, donc, on incarne plus Solid Snake, mais son père qui s'appelle Naked Snake, qui n'est autre que Big Boss, le boss des anciens jeux, en fait.
On embrasse tous les auditeurs qui comprennent rien.
Ça sent un peu la consanguinité, tout ça. Je veux pas dire, mais...
J'ai fait un résumé rapide, parce que c'est un peu plus compliqué.
Non, mais hein. Maintenant, c'est compréhensible. Moi, j'étais pas trop calé là-dessus, mais je comprends mieux.
Yes. Ensuite, on a eu Metal Gear Solid 3 Subsistance, en 2005, sur PS2.
Alors, ce jeu est très intéressant, car Metal Gear Solid 3, quand il était sorti, il y avait un gros problème de caméra. Une caméra aérienne qui empêchait un petit peu d'anticiper les mouvements pour les séquences d'infiltration. Metal Gear Solid 3 Subsistance introduit donc une caméra de dos, ce qui permet d'avoir une expérience de jeu complètement renouvelée, et introduit la première édition de Metal Gear Solid Online, qu'on retrouve d'ailleurs dans Metal Gear Solid 5 aussi, qui permettait un jeu en ligne, multijoueur, très intéressant à l'époque, quoi. Donc un plutôt bon opus, un très bon opus même. Et tout, il y avait un mode aussi génial qui permettait de remonter les vidéos, les cinématiques du jeu, de manière humoristique. Il était possible que Snake ait une aventure homosexuelle avec Raiden, il était possible que la mission se finisse avec des singes, enfin, c'était complètement délirant, extrêmement drôle, et il y avait même un mode spécial avec le personnage féminin Eva, un mode première personne de toute beauté, que je recommande.
Eh ben, tu vois, on en apprend des trucs de ouf, en vrai. Tu vois, on a bien fait de te faire venir, j'en étais sûr. Je l'ai vu sur Facebook, il était à fond Metal Gear, que t'es tout, toi tu vas venir. Heureusement que t'es là, sinon on aurait galéré, hein, je pense. Hein. Voilà, on va être sincère. Ensuite, on a eu Metal Gear Acid, sorti en 2005 sur PSP.
Alors, Metal Gear Acid, c'est un cas particulier, c'est un Gaiden hors série, car c'est un jeu de cartes, du coup. Donc, le scénario n'a pas grand chose à voir avec la saga. C'était une tentative des équipes de Konami. Je sais même pas si c'est Kojima Productions.
En fait, d'où le nom, tu vois. C'est ce que tu sens dans ta bouche quand t'as acheté le jeu. c'est acide.
Donc, c'était un jeu assez intéressant. Il fallait conditionner des cartes, affronter les ennemis via des batailles de cartes, un peu comme Yu-Gi-Oh, quoi. Donc, bon, c'est. Je dirais que c'est plus anecdotique qu'autre chose, mais intéressant.
C'est un peu le Gwent Metal Gear, quoi.
Ouais, ouais.
C'est ça.
Ok. Et tu vois, c'était tellement pourri qu'ils ont sorti le 2 en 2005.
c'est de la merde, mais au Japon, ça a cartonné. Les Japonais adorent les jeux à la con sur PSP, donc du coup, ils ont
déjà les jeux à la con.
Après Acid, ils l'ont appelé comment? Des gueulis?
Non, ils l'ont. non, mais alors par contre, il est en cel shading.
Exactement.
Donc un peu en bande dessinée pour les auditeurs. Ensuite, on a eu, putain, encore sur PSP, un truc de ouf, Metal Gear Solid Portable Ops en 2006.
Là, c'est beaucoup plus intéressant parce que Portable Ops est la suite en fait de Metal Gear Solid 3. Metal Gear Solid 3 se passe en 1964 et Portable Ops se passe en 70, donc 6 ans après. Et donc ça relate la suite des aventures en fait de Big Boss, donc le personnage borgne héros de Metal Gear Solid 3 et de Metal Gear Solid 5. Donc premier jeu donc qui se passe canonique de l'histoire, enfin plus ou moins canonique de l'histoire d'MGS. Qui se passe sur PSP avec un mode multijoueur assez intéressant. Vous pouvez jouer à plusieurs en réseau local avec des PSP à 4 en mode versus et qui donne quelques petites révélations sur l'histoire aussi, sur le scénario global de la saga.
Ok. Ensuite, on a eu Metal Gear Solid Portable Plus.
Bon, là on n'est pas obligé d'en parler parce que c'est vraiment une édition, une espèce de mise à jour en fait qui donnait plus de contenu pour le mode online en fait. C'est pas vraiment un jeu proprement parlé, c'est surtout un jeu multijoueur où faut se tirer dessus, quoi.
Ok, ensuite on a une version mobile de Metal Gear sur N-Gage, vous rappelez de ça?
Oh oui.
Le gros flop de ouf.
Le truc qui te prenait je sais pas combien de piles à l'intérieur, un gouffre à piles, la N-Gage.
Alors moi j'ai juste vu des images de jeu, je n'y ai jamais joué, et je pense que j'y jouerai jamais, parce que ça n'avait pas l'air très tentant.
Ça va te faire trop mal à ton stick.
Dérisé, c'est clair.
Ensuite on a eu, ah là je commence à connaître un peu, on a eu Metal Gear Solid 4, Gun of the Patriot en 2008 sur PS3. Sauf que moi j'ai pas été trop loin parce que ça parlait trop.
Oui,
ça parle beaucoup.
De cinématiques. Ouais.
Alors il y a énormément de cinématiques, mais moi qui suis un fan absolu de la saga... C'est trop. Je pense que le ratio doit être de 60% de temps de cinématique, 40% de temps de jeu, à peu près. Ce qui est quand même gigantesque. Cependant, pour les fans de la saga, c'est un opus maître extrêmement important, vu que c'est la fin de toute la chronologie Metal Gear, le point d'orgue final de toutes les aventures, de tous les Snake qui se rencontrent au dernier point. Et également, ce qui est intéressant, c'est que le jeu était divisé en plusieurs chapitres, qui changeait plus ou moins le gameplay. Il y avait la possibilité d'interagir dans des scènes de guerre, donc il y avait des scènes de bataille, il fallait s'infiltrer à l'intérieur de scènes de bataille, donc c'était assez intéressant comme point d'idée, et tu pouvais influer sur la bataille, choisir un des deux camps, donc il y avait quelques petites idées, c'était intéressant. Un système de camouflage adaptable par rapport
le
fameux octocamo, donc qui était assez intéressant aussi. Beaucoup de possibilités de gameplay, il était possible de s'infiltrer en prenant la structure même de l'endroit où on est. Par exemple, s'il y avait de la pierre, on pouvait devenir plus ou moins en pierre afin que les gens nous repèrent un peu moins, passer les détecteurs thermiques, etc. On pouvait rentrer dans des poubelles, dans des tonneaux. Enfin, il y avait plein de bonnes idées. Le jeu n'était pas très abouti, malheureusement, au niveau du gameplay. Mais c'était là, sans doute, le plus ambitieux en termes de révolution d'idées à l'époque.
Ok, putain, mais tu vois, c'est franchement, chapeau. Ensuite, on a eu Metal Gear Solid Touch sur iPhone et iPod. iPod Touch.
Bon, n'ayant jamais eu d'iPhone, je n'ai jamais joué à ce jeu.
Ouais, bon, voilà. Il se déroule dans l'univers de Metal Gear Solid 4, en fait.
J'ai vu quelques images, il y a des points d'interrogation, il faut appuyer. Il me semble que c'est un jeu de shoot à réflexe, il me semble.
Ok.
Je suis pas très sûr, mais malheureusement, je connais pas trop d'informations dessus, désolé.
Alors là, ensuite, c'est un peu problématique. On a eu Peace Walker.
Yes.
Donc, quelle est l'histoire de ce jeu?
Alors, Metal Gear Solid Peace Walker, c'est un jeu assez important pour MGS5 dont on va parler tout à l'heure. C'est encore la suite des aventures de Naked Snake, donc Big Boss, qui se passe après Portable Ops. Le jeu se passe en 1974, du coup. Un an avant Ground Zeroes, dont on va parler juste après. Et donc, ce jeu relate les premières aventures de Naked Snake Big Boss pour commencer à constituer son armée. Parce qu'en fait, le personnage va devenir un méchant, c'est de son destin. Il va être vaincu par son fils plusieurs années plus tard. Et là, il va commencer à fonder une armée de mercenaires indépendante de tout pays, de toute nation, et se lancer à l'aventure avec un collaborateur qu'il rencontre, Kaz Miller, qui va avoir un rôle assez important dans le jeu. C'est le premier jeu portable donc abouti, fait par Hideo Kojima, parce que Portable Ops n'était pas développé par Kojima Productions, et c'est sans doute le Metal Gear avec le plus d'idées, celui qui est le plus révolutionnaire dans sa forme, vu que l'objet c'est de fonder sa propre armée dans le jeu. Il faut recruter des soldats à l'envi, essayer de développer son armée, envoyer son armée en troupes de reconnaissance, etc. Gagner de l'XP, collectionner des animaux. Enfin, il y a plein de trucs à faire. Le système de CQC, de combat et d'action a été renouvelé. Également, le système de boss qui ressemble un peu à Monster Hunter. C'est-à-dire qu'il fallait explorer des zones entières, chasser plus ou moins des ennemis, collectionner des parties, puis les fusionner. C'était assez intéressant. Et c'est le brouillon de Metal Gear Solid 5, clairement.
D'accord, ok. Ensuite, on a eu... Ah, alors celui-là, j'y ai joué un peu. C'est Metal Gear Solid Rising.
Oui.
Alors, avec l'espèce de ninja. Alors, d'où il sort?
Alors, Metal Gear Rising se passe après tout ce qu'on a raconté. Hein. Ça se passe bien après Metal Gear Solid 4. C'est un hors-série avec le personnage de Raiden. Raiden était donc le personnage principal du 2, dont on parlait juste avant, un petit peu androgyne.
C'est la suite aussi du 4, non?
C'est la suite plus ou moins du 4. Ouais, plus ou moins, mais ça n'a pas grand-chose. Ça n'a pas grand-chose à voir. En fait, c'est un beat'em up. Ouais,
parce qu'on le voit dans le 4, Raiden.
Dans le 4, c'est devenu un ninja cyborg, d'ailleurs, exactement. Donc là, ça se passe après. Donc, c'est un jeu d'action ultra bourrin, qui n'a pas grand rapport avec l'univers de Metal Gear, si ce n'est certains ennemis et la direction artistique et le design. C'est un très bon jeu fait par Platinum Games, de très bons développeurs de beat'em all, mais qui n'a pas de réel rapport avec la chronologie globale de Metal Gear Solid.
C'est juste un défouloir.
C'est un gros défouloir
de beat'em all.
Et pour les fans de Raiden, qui avaient apprécié le Ninja Cyborg qui apparaît dans MGS4, en fait.
D'accord, ok.
Voilà.
Ensuite, on a eu Metal Gear Arcade, annoncé en août 2010, il sort en fait en décembre 2013.
Alors Metal Gear Arcade, de ce que je me souviens, c'était un portage de Metal Gear Online 2. Donc Metal Gear Online 2, c'est la version online de MGS4 en ligne, qui était un mode multijoueur en fait, où on se regroupait en équipe. Et donc ils ont fait une borne spéciale, qui n'existe qu'au Japon, où il est possible de se regrouper en réseau local, je crois, à 4 en même temps, 4 contre 4. Et j'ai pas pu tester malheureusement, vu qu'il n'existe qu'au Japon, mais c'est l'un des jeux que je
crèverais d'envie de tester, quoi. Clairement.
Ok, ça marche. Ensuite, on a eu Grand Zero et The Phantom Pain, dont on va parler dans un instant. Voilà. Il nous reste 3 minutes avant de s'écouter un scud de Kalitai. Est-ce que vous voulez rapidement nous dire pourquoi c'est aussi culte, Metal Gear?
Je pense déjà, personnellement, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, pour ceux qui ont commencé Metal Gear, je pense qu'il y a une grosse partie qui l'ont commencé par le Metal Gear Solid de base, pas les tout premiers. C'est là où, si tu jouais jusqu'à la fin, t'avais une vraie révolution. T'avais le passage de ce fameux quatrième mur où tu débranches ta manette, où t'es dans un truc 3D, où tu es vraiment dans de l'infiltration. Le mec, au début, bon, il lance des petites vannes, il est un peu rigolo, tu vois. Et c'est un personnage qui est, j'allais dire, charismatique pour l'époque, parce qu'il avait juste un bandeau, les cheveux longs, et puis ses yeux c'était de l'ombre, donc ça faisait mystérieux, tu connaissais pas trop, tu disais, ouais, le mec il est badass, il sait nager, voilà, il se bat contre des tanks, enfin voilà, et puis t'avais une crew, une bande d'ennemis qui se retrouve dans chaque Metal Gear. T'as une vraie essence de bande, un peu à la Team Rocket dans Pokémon, tu vois. Et tu dis, il y a une ligue de mecs qui en veulent à quelqu'un et tu dois tous les dézinguer. Donc ça, t'as ce côté très défi. Tu dis, il faut que j'aille au bout, je vais sauver le monde, quoi. Enfin, moi, je pense que c'est une des raisons premières. Je sais pas ce que t'en penses, Tomisa, mais...
Moi, bon, je vais pas être très objectif parce que je suis un gros fan, mais... Metal Gear a une particularité, c'est que c'est un jeu assez méta. C'est-à-dire que le jeu a la conscience d'être un jeu. Et le fait sentir au joueur extrêmement souvent.
Comme
c'est-à-dire
Deadpool.
Que, voilà, exactement comme Deadpool. C'est-à-dire qu'à des moments, à un moment, le personnage de Solid Snake dans le 1 se fait torturer. Et son geôlier, donc Ocelot, lui dit « N'utilise pas le tir automatique sur ta manette, je le verrai. » Des trucs complètement débiles.
Moi, ça m'aurait rendu dingue à 10 ans.
Et le jeu est rempli de ça constamment. Le jeu a une générosité gigantesque en termes de propositions scénaristiques. Globale, c'est la chronologie, pour vous faire court, elle dure sur un siècle, hein, de 1914 à 2014. Plein de personnages, plein de relations entre eux. C'est même parfois trop. Il y a beaucoup de choses qui fonctionnent pas très bien, hein, aussi. Mais si c'est culte, c'est que Metal Gear Solid, Metal Gear, la saga Metal Gear, c'est un univers, en fait, propre. Comme Star Wars, Gundam, ça va beaucoup plus loin que les gens en imaginent.
Yes. Ben, je sais pas, il nous reste 30 secondes. Tiens, Kogu, vite fait, toi, ou Kogu Stick?
Ben, moi, ça a surtout été, ben, le côté scénaristique qui, moi, j'étais déjà très jeune, dès le plus jeune âge. Enfin, j'ai toujours adoré les films, les grosses productions, les bons gros films comme on les aimait à l'époque. Et c'est surtout que ça a été desservi par une bande-son qui a toujours été couper le souffle et toujours des personnages qui ont été hyper charismatiques. On finissait par soit aimer, soit détester les personnages. Donc, il y a ceux qui aimaient Revolver Ocelot. Après, il y a ceux qui aimaient pas trop, parce que je crois qu'après, soit on le revoit lui plus jeune, ou voilà, parce qu'à un moment donné, moi, je me demandais si c'était son fils ou pas, mais non, c'était lui plus jeune. Donc on les suit à différentes étapes de leur vie, on les voilà, et puis on a grandi du coup avec la saga, grandi avec eux. Au début, ils étaient gentils, certains sont passés du côté obscur de la force, d'autres sont restés chez les gentils. Et moi, dans ces jeux-là, ce que j'ai toujours aimé, c'est justement toujours ce parallèle que j'ai toujours fait, notamment avec beaucoup de jeux, bah avec des trucs d'anthologie comme Star Wars, où le méchant, c'est toujours un gentil qui a souffert.
Yes. Goustique, en 2-3 mots, sinon tu le feras juste après le scud comme tu veux.
Ouais, après le scud, ouais.
Ok.
Après le scud, ouais.
Allez, c'est t'y part. Je coupe ça. Et puis alors là, mesdames, messieurs, toi, oui, c'est à toi que je parle.
Définitivement.
Toi qui es dans ta voiture, mon jeune ami. Tu peux baisser les fenêtres. Si t'es une petite voiture, tu peux mettre les deux coudes aux deux fenêtres. Si tu roules en smart, tu mets tes deux coudes. Fais-moi plaisir. Et monte le son, s'il te plaît. Allez, vous écoutez toujours La Voix du Geek sur Eau de Radio. Il est 20h. Et nous, on revient juste après Pierre Billon et la bombe triste. Allez, à tout de suite.
Vous écoutez Eau de Radio. Vous écoutez Eau de Radio. Vous écoutez sur 91.3. 91.3.
Allez, on est de retour dans La Voix du Geek sur Eau de Radio 411.3 en Aquitaine et sur Eau de Radio.net pour le reste de la Gaule. Vous avez 1h30, je distribue les copies doubles, vous faites une étude de texte sur ces paroles magnifiques, la bamba triste. C'est un truc de ouf, ce morceau, franchement. C'est ultra culte.
Moi, je te remercie parce qu'on va tous rentrer avec ce soir. Hein.
Ah, mais moi, je me suis réveillé avec ça dans la tête. Imagine l'angoisse de ma journée, quoi. Un truc de malade. En tout cas, bref, j'adore. Et puis, t'as vu, ça t'a fait plaisir dans ta voiture. À mon avis, il y a plein de meufs qui l'ont regardé. Le mec, il peut être comme ça, il devait faire le beau gosse. Bref, mon Dieu, quelle heure est-il? Dans un instant, le test de Metal Gear Phantom Pain. Mais avant ça, mesdames, messieurs, le coup de fil du PNJ.
Allô?
Le coup de fil
Oh, du PNJ.
Allô, allô, bonsoir à toutes et à tous. Depuis Takase, tous les doigts dans ton ki. Depuis un ninja du clan de Kisho, spécialisé dans l'espionnage, l'infiltration et la guérilla. Mon clan est issu des départements de Higa et de Koga, province située dans la région des Kansai, dont l'une des spécialités culinaires est l'okonomiyaki, qu'on peut y trouver dans les meilleurs restaurants d'Osaka. C'est un plat à base de choux, des viandes comme le porc, le poulet, le bœuf, le poulpe et du jaune d'œuf. C'est très bon, et comme on dit chez vous, c'est des petits jésus en culotte de velours.
T'es dédicace à Vincent, tiens.
Mais titre vous d'appel, toi, ce n'est pas évidemment pour parler de notre gastronomie internationalement reconnue, mais dans la mission que j'ai effectuée dans Metal Jouir Solide.
Non, vous voulez dire Metal Gear.
Ah, absolument exact, monsieur l'Infernal. Mais si j'appelle ce jeu Metal Jouir Solide, c'est que j'ai eu énormément de jouissance à atteindre les objectifs qui m'étaient assignés. Cette expérience en Afghanistan fut pour moi comme un lever de soleil sur le mont Fuji, à l'heure où les hérons drapés dans leurs blancs manteaux se délectent de la chair des facétieuses grenouilles qui tentent désespérément d'échapper à leurs prédateurs sous des croassements de terreur. Alors, aïe! Ma jouissance était à son paroxysme, car nous n'étions pas les seuls espions sur le terrain. D'autres nations avaient envoyé des agents, ce qui était fourbe, mais de bonne guerre. Ces soldats étaient tels des aigles majestueux volant dans les cieux, prêts à fondre sur le lièvre insouciant, mais totalement aveugles quant à nos déplacements de renards rusés. Et c'est par un pur hasard, alors que j'escaladais furtivement une façade abrupte, telle une araignée silencieuse aux pattes agiles, que j'aperçus non loin au-dessous de moi un carton se déplaçant tout seul. Je subodorais la présence de l'un de mes rivaux, mais lequel ? Je me demandais quel genre d'espion en carton-pâte pouvait être capable de subterfuges aussi pathétiques. C'est The Snake! Le soi-disant meilleur espion des services secrets américains! Caché sous un carton, cette bonne blague! Il avait fait des trous dans la boîte pour voir où il allait! Il se cognait contre les murs, cette andouille! À de retour de mission, quand j'ai raconté ça à mes collègues, ils étaient morts de rire! Hey, petit message à Snake, la prochaine fois que tu veux t'infiltrer dans un lieu hautement sécurisé, essaye plutôt le chrono poste plus rapide! Tocard! C'est l'un de mes cousins qui aimerait faire une petite dédicace à un membre de l'équipe, c'est possible?
Ah ben vas-y, je t'en prie.
Alors, c'est mon cousin Mabiru Takase.
Qu'on embrasse.
Ah, vous pariez, hein? Donc c'est mon cousin Mabiru Takase qui aime beaucoup les mangas et qui aimerait bien tirer les couettes à cette petite toquine de Candy. Alors, j'ai expliqué à mon cousin que Candy était le pseudonyme d'un garçon, mais il n'a rien compris.
Ah, putain.
Il faut l'excuser, il était un peu con. Hein. Allez, Dombra les gâteaux et Tagadara!
Ouais, bisous! Ouais, ouais. Bravo, mon poulet, franchement, c'était excellent.
Ouais, super.
Carrément, carrément. Mais reprends le micro si tu veux.
La petite musique, là.
Je crois que c'est celui qui m'a fait le plus rire après la vieille qui se faisait bouffer la chatte pour Dying Light.
Oui. Ah oui, c'est vrai. Ah oui. Alors, tiens, une petite parenthèse, en fait, c'était genre, il faisait une mémé qui voyait par la fenêtre des zombies, quoi, sans savoir ce que c'était.
De rire,
ah ouais, grave. Et il fait, mais vous vous rendez compte, moi, il y a un chat qui traînait dans le quartier, je lui mettais un petit bol de croquettes sur le rebord de la fenêtre, vous vous rendez compte, ils ont bouffé ma chatte. Ça, c'était énorme. Bon bref, merci Anthony, tu déchires.
Je vous en prie, c'est toujours un plaisir.
Super, mais carrément. Tiens, je fais une petite parenthèse, Anne, non t'inquiète pas, on est toujours là, je te fais la petite dédicace si tu l'as pas entendu tout à l'heure. Voilà, c'est fait. Allez, on va rester sur cette musique, tiens, pour parler de Metal Gear. Qu'est-ce que vous en pensez?
Allez, c'est très bien.
Ça donne envie
bisous
de...
Bisous Kikette à ma Mabiru Takase.
Oui, ma Mabiru Takase qu'on embrasse. Hein. Allez, c'est Tipar. Donc Metal Gear Phantom Pain, c'est édité et développé par Kojima Productions et Konami. C'est sorti le 1er septembre. C'est un jeu d'action infiltration. C'est sorti sur PS4, PS3, 360, One, PC. C'est interdit au moins de 18 ans. Et alors, mesdames, messieurs, je vous le donne en mythe. De quoi ça parle? Alors, est-ce que quelqu'un veut s'y coller? Ah, je vois Gusty qui tend le micro à Tomisa.
Je sens que je vais y aller parce que j'ai pas joué à Metal Gear. Donc,
Mais nous, on a très peu avancé, mais c'est pour ça que Tomisa est là et Clément aussi y a joué un petit peu.
Pas beaucoup, mais.
Donc vas-y, Tomisa, je t'en prie.
Bon, alors en gros, pour parler de Metal Gear Solid 5, il faut parler très rapidement de Metal Gear Ground Zeroes.
Oui.
C'était plus ou moins une démo. Hein,
une démo à 40 euros, je me rappelle quand même, quand elle est sortie.
On va pas en faire le débat, mais c'est un petit peu ça. Donc, qui se passe donc un an après les événements Peace Walker, dont on a parlé tout à juste avant. Et dans ces événements-là, la base du héros principal Snake est détruite par ses ennemis et il est plongé dans un coma de 9 ans. Donc, quand Metal Gear Solid 5 commence, le héros se réveille de ce coma et veut se venger de l'ennemi qui a détruit sa base et veut reconstituer une armée.
Et c'est là où c'est important d'avoir joué à Ground Zeroes quand tu attaques Phantom Pain. C'est que si tu attaques Phantom Pain sans y avoir joué à Ground Zeroes, tu dis wow, pourquoi le mec il lui manque un bras?
Pourquoi
le mec il a un truc dans le crâne? Tu comprends pas. Alors quand tu joues à Ground Zeroes, justement comme l'expliquait très bien Tomisa, tu te rends compte qu'en revenant à ta base, tu te fais attaquer, ça explose et tu te prends une espèce d'hélico dans la gueule. Et c'est ce qui fait justement que t'es dans le coma pendant 9 ans et que tu te réveilles dans Phantom Pain complètement destroy. Alors, truc qui était bien aussi, et Ground Zeroes a vachement profité de ça, c'est que on a eu toute l'histoire du Kojima Gate avec tous les problèmes au sein de Konami avec Kojima. Et ce qui était très intéressant dans le Ground Zeroes, et que c'était plutôt une bonne surprise, fangoustique, c'est qu'il y a une mission dans Ground Zeroes qui s'appelle Déjà Vu. Cette mission-là, elle reprend des scènes cultes du Metal Gear Solid, premier du nom, et nous demande dans le jeu de reproduire un petit peu les mêmes scènes, mais visuellement parlant. Donc tu fais ça et t'arrives à un endroit à un moment donné où tu as une espèce de gun qui te permet d'effacer des traces sur les murs, genre des tags, etc. Et tu te rends compte que ils mettent dans toute la map du jeu le nom de tous les jeux Metal Gear qui sont sortis. Et tous les jeux de merde, tu peux pas les effacer, et tous les bons jeux signés Kojima, tu peux les effacer. Et en fait, si tu réfléchis, c'était un petit peu, j'allais dire, une quenelle glissée par Kojima avant son renvoi, etc., qu'il y a eu là tout récent. Parce que il y a une phrase culte qui est dite, c'est tu peux effacer. C'est quoi exactement? Tu peux effacer le nom, mais tu n'effaces pas les souvenirs. Un truc du genre.
C'est
tu
beau vois, ça.
Pour dire à Konami, bon, ben en gros, vous avez enlevé mon nom de la boîte, mais les souvenirs, les gens sauront que c'est Kojima qui les a fait. Et c'est là aussi où je me dis, putain, c'était peut-être un petit jeu très court, mais où tu avais un vrai message de passer par Kojima auprès des fans. Et je l'ai su. En fait, j'ai commencé à jouer à Ground Zeroes au moment du Kojima Gate où il y a eu les histoires. Et c'est là je me suis dit, oh putain. Et j'ai compris le rapprochement. Et je me dis, mais le mec était intelligent parce que le jeu est sorti il y a 2 ans, je crois.
Il y a presque 2 ans.
Ouais. Il y a presque 2 ans avant que tout ça se passe. Et ça se passe maintenant. Ça a été développé encore. On peut. Ça est sorti il y a 2 ans, mais ça a été développé bien avant.
Ah oui, non, mais tu le développement d'un jeu, c'est 5 ans minimum.
Donc le mec, il avait pensé à tout ça, il avait déjà mis une quenelle en avance à tout ce qui allait se passer après, tu vois. C'est dingue. Et je me dis, waouh, chapeau mec. Et puis il leur glisse des petits messages bien cinglants pour dire, bon ben les gars, vous me faites disparaître, mais je suis quand même là.
Alors, un petit reproche, juste une parenthèse, après on va continuer sur l'histoire, mais moi c'est ce qui m'a gonflé dans Phantom Pain, c'est que au final, chaque chapitre se déroule un peu comme une série.
Oui.
Donc, t'as un générique avec starring Mabita Kase, ou je sais plus comment il s'appelle.
Mabiru Takase.
Voilà, t'as tous les noms des gens qui passent en speed, en accéléré, et t'as toujours Hideo Kojima qui est au ralenti, tu vois, qui reste hyper longtemps, quoi. Et ça, c'est à chaque chapitre, ça m'a gonflé.
C'est pour se venger qu'il lui ait viré son nom de la boîte.
Mais
c'est de bonne guerre.
Il a voulu apporter un petit côté série dans toutes les missions du scénario. Ont ce générique-là. C'est vrai qu'au bout d'un moment, bon, c'est un peu saoulant. Et en plus, ça spoil parce que ça montre les personnages qui vont apparaître dans la mission, dont parfois des personnages qu'on s'attend pas à voir.
D'accord.
Donc, c'est un peu à double tranchant, on va dire. Mais bon. L'effet, c'est sympa, quoi. C'est une bonne idée.
Et d'ailleurs, juste avant d'attaquer Phantom Pain, c'est ce que je voulais rebondir sur ce que disait Kogu tout à l'heure, et c'est vrai, c'est que dans la série des Metal Gear, il y a un vrai désir, on va dire, de mettre en avant le côté cinématographique, parce que Kojima, à la base, est un grand cinéphile, et il adore tous les trucs américains, tous les films d'action, etc., d'infiltration, et je crois qu'il aime beaucoup aussi les bouquins Tom Clancy et compagnie. Et comme tu le dis, c'est un truc aussi qui accroche vachement. Alors après, peut-être trop sur du MGS4 où t'as que de la cinématique, en veux-tu en voilà. Mais t'as ce côté cinéphile derrière où il veut créer vraiment un aspect film. Et on le voit. Là, on peut faire la transition sur le Phantom Pain où t'as la caméra du jeu. Ils te font ressentir littéralement que c'est comme un caméraman. T'as tes deux protagonistes et t'as le caméraman à côté, il regarde, il suit le truc.
D'ailleurs, un peu comme
c'est très immersif, quoi. C'est vachement bien fait et c'est tourné comme un film, comme une série.
Caméra à l'épaule tout le temps, ouais.
Même pas.
Il s'est inspiré de Plus Belle la Vie, moi, on m'a dit.
Ah oui. Mais la version anglaise, Plus Belle la Life.
Plus Belle la Life.
C'est la version américaine.
Grand Zeroes était pensé comme un plan séquence unique, on va dire. Toutes les cinématiques se passent avec la même caméra, du début à la fin. MGS5 est un petit peu dans cet état d'esprit, même s'il y a certains moments où on sort un peu du plan séquence. Mais ce qui est très intéressant dans Metal Gear Solid 5 The Phantom Pain, c'est qu'il a réussi par moment, hein, peut-être 3-4 scènes au sein du jeu, à intégrer un aspect cinématographique dans le gameplay, et à l'intégrer dans le gameplay, ce qui est assez intéressant pour des scènes clés hein, du jeu, bien sûr.
Tu vois, je pensais au prologue, par exemple.
Le prologue, c'est un bon
exemple. Le prologue est génial parce qu'à un moment donné, bon, sans spoiler, hein, mais t'as des gardes qui essaient de nettoyer des couloirs où t'as des cadavres partout. Tu vois ce que je veux dire?
Oui, la séquence où ils sont allongés.
Voilà, c'est
très
ça.
Cinématographique.
Et en fait, ils sont cachés dans une pièce. Ils sont à l'ouverture d'une porte et tu vois par l'espèce de caméraman les mecs arriver du bout. Et tu sens que c'est comme si c'était un mec la caméra, vraiment un caméraman parce qu'il filme, mais parce que les mecs sont prêts à le voir, ils se disent ouais, je me cache. Alors que c'est qu'une caméra, on s'en foutrait, mais t'as ce côté vraiment où tu sens que c'est presque un humain
presque
derrière
toi,
la caméra, quoi.
C'est presque toi, du coup, la troisième personne.
Ouais, c'est ça, exactement. Ouais, c'est là où je me suis dit, putain, c'est vraiment bien réalisé.
C'est très bien foutu. Ouais. Il y a même une scène, notamment un affrontement contre un boss, hein, je n'en dirai pas plus, où durant cet affrontement, les déplacements que va faire le personnage et la scène de l'endroit, il y a une ambiance, une direction artistique. On pourrait croire que c'est un film alors qu'on est en train de jouer. Et ça, c'est vraiment très 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 fort qu'il ait réussi à faire ça. C'est difficile à faire tenir ça dans tout un jeu, par contre. Mais vu les environnements qu'ils ont travaillé pour le jeu, il y a des endroits où t'as vraiment l'impression que t'es dans un film d'action et c'est assez juste.
C'est là qu'on voit des fois que c'est super bien fait. C'est parce que du coup, tu poses la manette, tu regardes et tout d'un coup, ah, t'es surpris parce que.
Oui, voilà, il faut jouer. Ça, oui, exactement.
Alors de plus en plus dans les jeux, hein, ouais. Le moteur physique, enfin le moteur graphique in-game et celui des cinématiques est de plus en plus proche. Ça arrive souvent dans les Uncharted et compagnie. Où t'es là, ah merde, c'est la cinématique qui est finie.
Ça m'a fait ça.
Oui, oui, carrément.
Au début, tu sais, quand tu te retrouves dans la cuisine, j'attendais. Je me dis, ah merde, c'est à moi de jouer.
Comme dans Until Dawn, c'est ça?
Ouais, c'est ça.
Ah ouais. Avec Brice, on avait eu cette sensation justement. Parce qu'on on regarde un jeu, enfin on joue à un jeu.
Mais c'est un film.
Et moi, en tant que spectateur, je me disais, mais vas-y, enfin dans le film, il faut qu'il se passe quelque chose. Et en fait, c'était Brice qui est en train de jouer.
C'est ça.
Et c'est vachement prenant, c'est vachement immersif comme.
Et d'ailleurs, il y avait eu un petit truc. On parlait tout à l'heure des petits machins en mode gameplay incrusté. Je sais pas si tu l'avais lu. Dans Until Dawn, tu tombes sur un bouquin. C'est le Kama Sutra. Et le mec, littéralement, te fait toujours penser, te faire bien ressortir que c'est un jeu vidéo en te disant, ouh, il dit, je ne sais pas si je serais prêt encore à tester ce genre de gameplay. Tu vois, alors que t'es littéralement dans un jeu vidéo. Ouais. Donc c'est sympa le petit côté aussi qui te rappelle ça, quoi.
Un peu méta, ouais.
Yes. Dans l'idée, parce que là, du coup, on a encore 12 minutes d'émission. On sera un peu à la bourre, c'est pas grave, on s'en fout. Qu'est-ce qu'on y fait dans ce jeu? C'est un jeu d'infiltration.
Alors, Metal Gear Solid 5, The Phantom Pain, a été pensé comme un jeu d'infiltration. Le sous-titre, c'est Tactical Espionnage Opération. Donc, il y a un côté infiltration, un côté gestion d'armée et de base. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un aspect open world qui a été introduit pour la première fois dans le jeu, avec des cartes beaucoup plus vastes qu'à l'accoutumée, et un choix assez important dans la manière dont on va élaborer sa mission. Un peu à l'image de Far Cry 3, je ne sais pas si vous y avez joué,
mais c'est un petit peu
la même idée. Il y a un point qu'il faut capturer avec plein de gardes, et on peut choisir soit de l'attaquer par infiltration, prendre un moyen détourné, utiliser certains objets, certains compagnons qui vont nous aider. Et c'est la première fois que Kojima a vraiment pensé à un jeu et une map gigantesque, deux maps en tout cas, gigantesque d'ailleurs dans le jeu, pour pouvoir laisser l'opportunité aux joueurs d'improviser. Et c'est ce qui fait que la replay value est assez assez énorme sur ce jeu.
Et c'est ce qui fait que je suis passé à côté, moi, parce que j'ai foncé dans le tas à chaque fois.
Ouais.
Moi.
En fait, le jeu au début force quand même à faire beaucoup d'infiltration, parce qu'on n'a pas beaucoup d'équipement au départ du jeu. Donc il y a beaucoup d'infiltration. Une fois qu'on s'équipe, qu'on a une armée pour nous aider, l'hélicoptère, etc., il y a énormément de possibilités qui s'ouvrent à nous en termes de mécanique de gameplay. Le jeu a été vraiment revu de fond en comble, et je pense qu'en termes de gameplay, c'est peut-être le Metal Gear Solid le plus abouti.
La météo également rentre en jeu.
La météo, exactement, un climat dynamique, des tempêtes de sable, des tempêtes
la
de
nuit,
pluie,
et compagnie.
Le jour, la nuit, qu'on peut accélérer via un accessoire d'ailleurs. Le héros peut fumer un cigare électronique, le Phantom Cigar, donc, et accélérer le temps de manière rapide et un peu stylée, où on voit le décor accélérer.
Un timelapse.
C'est ça le terme, merci. Et peut choisir d'attaquer la base soit à 6h du matin, soit à 18h, soit à minuit. Et ça impacte les rondes des soldats, leur comportement, le placement des lampes, des gardes, etc. Donc c'est. Ça vaut le coup. Honnêtement, si les gens ont l'opportunité de tester le jeu, faut pas trop se fier au prologue qui n'est pas représentatif de ce qu'est le jeu. À partir du moment où on est en Afghanistan en cheval, qui a une étendue gigantesque qui s'ouvre devant nous, là on est clairement dans Phantom Pain.
C'est rien, c'est mon téléphone qui sonne. Tout est normal.
Alors apparemment, il y a un trophée super sympa à faire une fois qu'on a le cheval. C'est une fois qu'on a, par exemple, endormi, on va dire, un assaillant, on peut amener le cheval Et faire en sorte qu'il lui fasse caca dessus.
Non.
Il y a le trophée pour faire faire caca au cheval sur le bandidos.
Mais t'as une interaction pour le lui faire faire caca.
Ouais, tout à fait.
Ouais, exactement.
Ah ouais. Le personnage, donc Kiefer Sutherland, qui fait la voix, dit do it, et donc il fait caca. C'est un peu débile, mais il faut savoir que ça a son utilité dans le jeu, car si on fait donc chier entre guillemets son cheval sur la route et qu'une voiture passe, ça peut faire déraper une voiture. C'est débile, hein, mais ça marche.
Déraper comment? Déraper, se casse la gueule et tout.
Elle dérape, se casse la gueule.
Ah ouais. C'est bien connu.
Ah, okay. Ah, moi je me le rappelle d'une gastro de goustique, on n'était pas loin.
Le pauvre.
Ne rentrons pas dans le détail.
C'est à cause de ses galettes de maïs.
C'est ça.
Ah oui, non mais ah oui, alors. Parce qu'il faut savoir.
C'est un mangeur de polystyrène.
Ah oui, goustique, attention, ça y va, les galettes militaires là. À chaque début d'émission, il en bouffe une quinzaine quoi.
Il est en train de se préparer pour la
J'ai rigolé, j'attends juste qu'il ouvre sa bouteille d'eau, il va se mettre à gonfler d'un coup.
Oui, c'est clair, comme si tu mangeais une éponge.
Mais c'est une spéciale Metal Gear, du coup, il a amené ses rations.
Voilà. Oui, c'est vrai. Ouais, c'est vrai, en plus, c'est les rations. Ouais.
Du coup, est-ce qu'on peut parler un petit peu des graphismes? Est-ce qu'il a une. Enfin, moi, j'ai trouvé qu'il était plutôt beau, même si les décors étaient un peu redondants.
Le Fox Engine, en fait, est bien utilisé en termes de reproduction des décors, surtout, modélisation des personnages un petit peu. Ce qui est un fait assez important à souligner, c'est que c'est l'un des rares jeux sur PlayStation 4 à tourner en 1080p et 60fps. Donc c'est plutôt plaisant et grisant à jouer. Après oui, bon, ça dépend aussi des décors, c'est vrai. Il y a des décors qui sont un peu monotones, après il y a des endroits un peu boisés, des forêts, des intérieurs qui sont plutôt cool, mais c'est très homogène en fait en termes de graphisme. C'est pas forcément magnifique, mais esthétiquement c'est très beau.
Yes, tiens, je fais une parenthèse, il y a Célia, tiens, qu'on embrasse sur le Twitter, qui nous fait c'est moi qui ai trouvé ce trophée. Elle s'approprie un petit peu.
Ah oui, d'accord, ok. On doit signer un brevet. C'est ça, tu veux de l'argent, c'est ça?
J'ai déjà pas le brevet des collèges.
Ouais, bah alors toujours par rapport au graphisme, moi ce que j'ai trouvé de vachement bien bossé là-dessus, certes les graphismes, les environnements sont bien, mais un truc de malade, c'est les effets de lumière. Mm-hmm. Les effets de lumière sont dingues. Les reflets des lampes, même quand t'es en pleine nuit, tu te fais repérer, le mec il tire une espèce de flare en l'air, tu vois, pour simuler un peu la lumière du jour, pour tout éclairer en zone, ce genre de choses. Et tu t'en rends compte dans le désert où tu prends le cheval après Ocelot, le reflet, les ombres sur ces rochers, sur ces massifs montagneux, c'est magnifique.
Ça change tout.
Et là, la lumière, il y a un vrai travail dessus, et je pense qu'il a été vachement chiant dessus, Kojima, mais c'est, pour moi, ça a été photoréaliste.
C'est vrai qu'il y a même l'eau. L'eau, on va pas se mentir, quand l'eau coule, voilà.
T'as presque envie de la boire, quoi. T'es là.
Ouais, c'est assez classe.
Il y a même l'effet de comment ça s'appelle déjà, le lens flare, si cher à J.J. Abrams, qui est utilisé. Ils connaissent bien Kojima, d'ailleurs, c'est plus ou moins des copains. Et c'est hyper bien reproduit, c'est impressionnant. Le jeu de lumière permet de mettre aussi en valeur pas mal les visages, tous les détails. Là-dessus, le jeu, ça va.
Je pense même que ce jeu a été repoussé pour ça, pour avoir une qualité technique. Qualité technique poussée vraiment à un maximum.
Il faut souligner que si le jeu a mis aussi tout ce temps à sortir, c'est que Kojima a lui-même participé au développement du Fox Engine, donc qui est utilisé pour se faire sortir le jeu. Donc c'est un moteur donc propriétaire de Konami, et ça a pris beaucoup de temps. Konami lui a commandé la création de ce moteur, et du coup ça a retardé le développement. Même si Konami se plaint, on va dire que le jeu a pris du temps, c'est aussi un peu de leur faute. Et la condition pour qu'il fasse ce moteur, son propre moteur, c'est qu'il fasse un MGS lié au moteur d'ailleurs.
Ok. Non mais vous voyez, on en apprend des choses. Hein. Et tiens, aussi on a oublié de parler. Voilà, entre chaque mission, on est amené à revenir sur la Mother Base.
Tout à fait.
Alors est-ce que vous voulez nous en parler de ça?
C'est un aspect du gameplay très très intéressant parce que c'est vraiment un jeu dans le jeu. En gros, pour vous faire un résumé, c'est un peu une collecte de Pokémon. Le personnage de Big Boss doit constituer son armée. Donc quand on est sur un champ de bataille et qu'on vainc des soldats sans les tuer, il est possible de leur mettre un petit ballon sur le dos, les extraire par hélicoptère.
Ça, j'adore.
Et les convaincre, entre guillemets, quoi, de rejoindre son armée. Les soldats ont tous des statistiques, ont tous des spécialités, et il est possible de les assigner à un endroit spécifique de la Mother Base, médecin, sniper, recherche et développement, etc., etc. Et ça permet de faire grossir sa base, de faire grossir ses moyens, de développer de nouvelles armes, de nouvelles techniques. Et c'est vraiment un jeu très, très, très actif.
C'est un petit peu ce qu'ils avaient fait avec Black Flag et Assassin's Creed, en fait,
quand on envoyait des bateaux.
Donc ils ont fait le jeu dans le jeu.
Le jeu dans le jeu, clairement. Il y a même une recherche d'animaux qui rentre en compte.
Oui,
plein de choses. Et il est possible d'étendre sa base en termes de taille et de visiter intégralement la base. C'est une map gigantesque qu'on a loisir de visiter, aller voir des personnages et interagir avec eux. Les soldats de Big Boss qui le saluent à chaque fois qu'ils passent.
Oui, bah moi je leur mettais des tatanes. Prise, moi, je...
ils te remercient quand tu les frappes.
Oui, c'est
merci
vrai.
Merci de vous entraîner avec moi, Big Boss.
Merci de m'avoir cassé le nez pour la 8e fois cette semaine. Non, mais juste une parenthèse sur ce petit ballon là, moi qui m'a fait beaucoup rire. Donc on y faut imaginer un ballon de baudruche à l'hélium qui entraîne le mec qui est assommé dans les airs. Ce qu'il faut savoir, c'est que ça existe vraiment, ça.
Tout à fait.
C'était utilisé par l'armée dans les années 60-70, et j'imagine trop les extractions avec ça, sachant qu'on peut soulever des véhicules avec. Hein.
En fait, il est ramassé avec les ailes des avions.
Un avion cargo qui passait en
Ah oui, oui, carrément.
En fait. Il y avait un gros timing à avoir parce qu'il fallait que l'avion passe à une heure hyper précise. Le soldat ou la personne qu'il fallait extraire partait donc à une vitesse gigantesque. Et le choper avec une espèce de crochet.
Je sais pas si ça vous rappelle.
Bah si, c'est ce que j'allais dire.
Le film Batman.
Mais bien sûr.
Mais voilà. Si vous voulez voir à quoi ça ressemble, dans Batman The Dark Knight, il y a exactement la même scène quand il va kidnapper un chinois, je crois. Et il l'attrape avec ça, un grand ballon qui, et hop, et l'autre, Alfred passe avec l'avion et le récupère.
Ça s'appelle le système d'extraction Fulton, du nom de l'inventeur. Vous pouvez regarder sur Wikipédia, ça existe. Vous
pouvez en commander pour chez vous.
Ouais, j'adore.
Bon, c'est un truc que la CIA a utilisé et qu'on voit dans MGS3.
Ah, t'as intérêt à avoir un avion.
Je vais être en retard à l'école, papa, pas de problème.
Allez,
hop, tu l'accroches au cartable, mon gars.
Bien sûr, dans le jeu, c'est utilisé de manière plus ou moins humoristique. Et c'est surtout un raccourci rapide pour pas emmener le mec à l'hélicoptère à chaque fois, en fait.
Oui, c'est vrai, ça serait assez lourd.
Ouais. Enfin, moi, j'ai vu beaucoup de chèvres s'envoler comme ça.
Oui,
dans
c'est vrai.
Les gens, dès qu'ils voient une chèvre, un truc.
Alors, en plus, t'en as pas autant que tu veux, t'en as une dizaine.
Ouais, exactement. Au fur et à mesure, tu peux en avoir de plus en plus.
Ah, moi, j'en ai vu 17, le gars, il en avait, quoi.
Ouais, voilà, tu les débloques.
Alors, il est question de multijoueur dans ce jeu MGS. Et est-ce que ça ne touche uniquement que de l'affrontement de Mother Base à Mother Base?
Alors, malheureusement, je veux pas trop pouvoir vous parler du multijoueur parce que le serveur marche pas très bien en ce moment, donc j'ai pas pu trop m'y essayer. Je connais uniquement le système de FOB, donc qui est un système de duel entre bases extérieures, en fait, où l'ennemi peut envahir ta base et il faut la défendre, c'est de l'attaque-défense. Mais il me semble qu'il y a un mode de jeu un peu plus classique aussi, qui se passe dans des maps. Ça plus de détails prochainement. Hein, mais
j'ai eu peur.
A priori, dans les anciens Metal Gear Online, c'était comme ça et je pense qu'il y aura ce mode de jeu qui va arriver un petit peu plus tard.
Yes. Pour conclure, est-ce que c'est un jeu que vous conseillez? Moi, c'est un jeu auquel j'ai joué, je sais pas, 4-5 heures. J'étais pas du tout dans le truc, quoi. Je pense que c'est un jeu que je pourrais refaire plus tard, mais au moment, à l'heure H où j'y ai joué, j'avais pas envie de m'infiltrer, quoi. Tu vois, j'avais pas envie de prendre mon temps. Et oui, ça arrive des fois, j'ai pas envie de m'infiltrer. Et mesdames qui m'écoutez, mesdames et mesdemoiselles qui m'écoutez sur l'antenne d'Ode Radio. Des fois, j'ai pas envie de m'infiltrer.
Voilà. C'est comme ça que t'as cassé ta biroute après. Hein.
Ah bah, hein. Avec le pote d'Anthony.
C'est ça.
Non, mais voilà. Et du coup, est-ce que vous le conseillez quand même? Est-ce que parce qu'il y a un côté action quand même?
Bien sûr. En fait, moi, je dirais que c'est quand même un incontournable en termes de hype. C'est quand même l'un des plus gros jeux de l'année. Au moins, je conseillerais au jeu d'essayer dans un premier temps, faire au moins les 10 premières heures du jeu pour voir si ça leur plaît ou pas. Et honnêtement, tout le monde peut y trouver son compte. C'est un jeu d'infiltration, hein, faut pas s'y tromper. Mais il y a tout un aspect gestion, tout un aspect collectionnite, exploration. Il est possible de visiter librement les maps. Et il y a tellement de trucs dans le jeu et tellement d'heures de gameplay. Moi, je le recommande absolument. Il faut au moins y jouer, au moins le tester pour se faire s'approprier sur le
jeu. Mais cependant, je pense qu'il faut vraiment avoir un minimum, vraiment un mini-minimum de connaissances sur la saga.
Mais oui,
si tu connais
non,
pas les protagonistes, tu comprends rien, je pense.
C'est ça qui
peux faire le jeu, mais tu passes à côté quand même de
c'est
background qui est hyper intéressant.
C'est exactement ça. C'est qu'en fait, même quelqu'un qui connaît pas MGS peut commencer par ce chapitre-là, parce que même en matière de chronologie, c'est pas trop dérangeant de commencer par celui-là. Mais en effet, oui, il vaut mieux connaître l'histoire de Metal Gear pour plus profiter et apprécier. Surtout la fin, je pense que les gens comprendront rien s'ils n'ont pas joué au précédent, pour vous le dire clairement.
Ben, c'est ça, ouais. Moi j'ai trouvé ça un peu excluant.
Ouais.
Ce
ouais,
qui est normal au final.
Mais le pire, c'était Metal Gear Solid 4. Metal Gear Solid 4 qui est un jeu vraiment fan service. Et là, si on connaît pas le jeu, c'est mort. Hein. Clairement, c'est mort.
Et ouais, parce que c'est vraiment, voilà, il y a beaucoup de clins d'œil, beaucoup de. Enfin, c'est chaud hein, quand même.
C'est parti.
De suivre.
On est déjà plus vieux que les autres, qu'on ait au moins l'avantage de pouvoir comprendre les Metal Gear à la place des petits jeunes qui commencent à les faire aujourd'hui.
Moi, j'y joue depuis que j'ai 13 ans, donc forcément, j'y joue quasiment toute ma vie au jeu, donc je connais très bien l'univers. Mais c'est vrai que c'est assez difficile de bien comprendre tous les tenants et les aboutissants du scénario, commençant par celui-là. Par contre, c'est un très bon jeu pour découvrir l'univers global de Metal Gear. Parce que, honnêtement, en termes de personnages, d'univers, il y a quand même des choses. Hein. Je pense que même quelqu'un qui n'est pas spécialement un fan d'MGS pourra se retrouver dans le jeu. Et prendre son pied à faire des missions, à organiser ses trucs d'infiltration, sa base, ça vaut le coup.
Yes, ok, je te remercie. Tiens, il y a Célia qui nous fait le premier Metal Gear en notif que Red Dead Redemption.
Ouais, on est un peu dans le même ordre d'idée, ouais, c'est vrai. Surtout au début, parce que les aspects un petit peu désertiques, le cheval, c'est clairement dans le même état d'esprit, ouais.
Yes, bon bah merci beaucoup en tout cas. Tiens, n'hésitez pas à faire comme Célia si vous voulez réagir en direct à l'émission. On a un Twitter, La Voix du Geek, La Voix avec un E, comme le Facebook. Moi, je lis tous vos messages en direct. Bah écoute, merci Tomissa.
Mais je t'en prie.
On a appris énormément de choses, quoi.
On n'avait pas beaucoup de temps, mais bon, j'ai fait de mon mieux.
Eh ouais, bah ouais, je sais, ouais, mais une heure et demie, mais ça passe vite.
Heureusement, faut pas trop me lancer, sinon je parle trop longtemps.
Non, mais franchement, merci beaucoup, quoi.
Je t'en prie.
On a appris beaucoup de choses.
C'était cool. Et d'ailleurs, continue le jeu parce que ça te plaira. Il y a un petit côté démoniaque et infernal. J'en dis pas plus.
D'accord. Mais... Ah. Bah, le problème, c'est que j'ai effacé les sauvegardes.
Oh merde!
En plus d'un coup de sang, un peu.
Tu sens le mec patient, quoi.
Ah, ah oui, ah bah. Chier, ah bah, moi, c'est. Attention.
T'as pas cassé ta console, quand même.
Non, 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 non.
Oh, certainement pas.
Je le fais plus, ça. Je tape sur le chat qui joue de l'accordéon. De la trompette, l'accordéon. N'importe quoi. Bon, bref, ça fait plaisir. Merci, Clément. Merci, Dandy, pardon. On va.
Merci, l'infernal. Merci à toi, c'était cool.
Bah, carrément. Bah, écoute, merci. Merci, Goustic.
Merci, l'infernal.
À la semaine prochaine. Tu pars quand faire les vignes, espèce d'alcoolo?
Écoute, soit peut-être la semaine prochaine. Tout dépend de la météo, en fait, tout simplement.
Tu me feras une photo de toi avec une feuille de vigne.
Ah ouais, ah ouais, ouais.
Ah, va nous revenir avec le Marcel et le bronzage agricole. Alors là,
ah,
Lopez,
mais comme à chaque fois,
Lopez,
donc,
à 200%, quoi.
Lopez de ses morts.
Ouais.
Et, non, non, mais je t'en dirai un peu plus, et puis, voilà, quoi.
Ok, ça roule. Merci, Kogu, d'être venu nous voir.
Bah, merci, Kogu. Merci.
Bah, de toute façon, la semaine prochaine, t'es là aussi, parce qu'on teste Mad Max.
Ouais.
Bah, maintenant, va falloir vous habituer, les gars, de toute
façon. Eh oui, mais t'inquiète. Et puis merci Anthony pour le coup de fil du PNJ, c'était cool.
Yeah. Mais de rien les amis, et à mardi prochain.
Faut tout. Je sais même pas quoi dire.
C'est une bonne fin.
C'est ça.
Comme ça, ouais.
Bon, en tout cas, merci à vous. Hein. Vous êtes toujours de plus en plus nombreux à nous suivre chaque mardi. Ça fait plaisir. C'est la rentrée. On est reparti pour une saison 4. Cette année, ça va être un truc de dingue. Qu'est-ce qu'on fait la semaine prochaine? On se fait le test de Mad Max. Le 22, on reçoit Stratégeux, tiens, qui vont bien nous parler un petit peu de l'event qui se passe à ce nom. On se fera le test de Disney Infinity aussi 3.0. Il y a Nimasia qui arrive bientôt en octobre.
Conférence 14.
Bientôt.
C'est le mardi, c'est le 22. 22, on va à la conférence de presse d'Animasia.
Il va y avoir des petites saucisses.
Il y a des petites saucisses.
Ah, est-ce que tu pourras m'en garder en doggy bag?
Je te ferai ton petit pochon.
Oh, c'est mignon.
On vous racontera tout ça, en tout cas. Tiens, je refais un bisou à Anne et à sa petite famille. Welcome in Bordeaux. Ça fait plaisir. On souhaite un bon anniversaire à Quentin. Et puis voilà. Bonne fin de soirée à l'écoute d'Ode Radio. Et puis nous, on revient. Mardi prochain, 19h, Ode Radio 411.3 en Aquitaine et sur oderadio.net pour le reste de la Gaule. Bisous.
Bisous, ciao. Tout le monde.
Bisous tout le monde.
Vous écoutez Ode Radio, la radio des Hautes-Garonne sur 91.3 FM.